Yes, ça marche, trop fort. Oh, c'était super impoli, désolé de vous avoir lâché. Voilà, petit bug. J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu faire l'ingénieur en informatique en récupérant le chat en 2-3 clics de souris, clic gauche, clic droit, clic inversé, double clic salto arrière, double loop piqué de souris. Et j'ai pas réussi. Voilà, donc j'ai tout simplement arrêté OBS et relancé. J'aurais voulu faire plus fin, plus subtil. Alors, donc finalement j'ai menti, la notification disait peut-être le dernier stream de la saison, bah c'était pas le dernier puisque en voici un deuxième et pour le même prix, et pour le même prix. Zals, merci pour le 8e mois d'abonnement, Gulaf 80 pour le 7e mois, vous êtes formidable. Donc oui, comme je le disais, peut-être le dernier stream de la saison parce que même si les vacances sont pas tout de suite, voilà. Des rendez-vous importants pour Twitch en ce début de semaine qui tombe le matin et un petite opération jeudi matin à l'aube, rien du tout, un truc de rien du tout, de rien du tout, de rien du rien du tout, mais du coup pour le même prix on s'est tapé une deuxième pub quand même. Yes, vous êtes pris une deuxième pub, oh c'est bon ça Yotama, ok top. Et donc du coup, ben en fait, voilà, pendant quelques jours après, je pourrais pas streamer quoi. Donc voilà pourquoi cette fin de saison est un petit peu tôt quand même, 19 juin. Mais pour me faire pardonner, eh bien je reviens fin juillet, voilà. Et en fait, la saison prochaine, elle va pas commencer fin août, elle va pas commencer en septembre, elle va commencer fin juillet. Donc je trouve que c'est une bonne façon de se rattraper. Donc en gros, ça veut faire une petite pause d'un mois quoi, d'un mois. Tout mis bout à bout, quoi. Et je m'en excuse. Donc l'opération, je vois que Bulotte Bulle a les infos, puisque rien n'est filtré jusqu'ici, et Bulotte, Bulot, comme les coquillages, a l'info, donc en écrivant dans le chat, ici, je le lis très très bien, donc tu le fais, cet agrandissement pelvien, exactement. Voilà, exactement. Exactement. Pas encore sur France Info, je peux pas encore vous annoncer les trucs. Voilà. Merci Julien STG29, j'espère que tu vas bien, merci pour ce 22e mois d'abonnement. Après en août, il n'y a pas grand monde sur Twitch. Ah bah je serai là, ouais, le Pharaoh, ouais. Ouais, je serai là en août. Je serai là fin juillet, je serai là en août. En août, vous serez là, vous ou pas d'ailleurs? En août, vous serez là ou pas? En août, ou c'est pas la peine? En août, je serai là. De toute façon, moi, il faut que je prépare la rentrée, il faut que je prépare les émissions de la rentrée. On va repartir, ça je peux vous le dire, c'est quasiment sûr, pour une deuxième saison de l'Hebdo Étienne, l'émission du vendredi avec les invités. A priori, c'est quasiment sûr. Je dis quasiment parce que bon, on n'est pas dans la certitude absolue. On est quasiment sûr de faire une saison 2 de l'Hebdo Étienne. Voilà. J'ai tellement envie qu'il y ait aussi une première saison de Samplay, l'émission sur le jeu vidéo qu'on vient de lancer. Comme manifestement, elle vous a bien plu, que c'est quasiment sûr aussi. Donc ça nous fait deux hebdos à la rentrée. Voilà. Donc le vendredi, l'hebdo Étienne, ça on va pas changer le jour, et puis l'émission sur le jeu vidéo, ça me plaît là, ça je la lance à la rentrée. D'ailleurs vous avez une préférence pour le jour, vous savez, ça me plaît l'émission dont on a fait deux numéros, qui étaient un peu des numéros test bêta là, en ce mois de juin là. Donc la première avec Kayane sur l'univers de Street Fighter, la deuxième avec Ken Bogard sur l'univers de Super Mario. Il faut que je lui trouve un jour. Alors on va pas chasser l'hebdo Étienne du vendredi, donc ce sera pas le vendredi. Sleepy Tomio dit samedi, Lilou Rennes dit mardi. Lilou, c'est mardi, c'est popcorn. Hein. Jeudi, c'est cool. Jeudi, c'est Jean Massier. Bon, en fait, moi, j'aime pas trop streamer face aux copains. Je trouve pas ça cool. Donc jeudi, bof. Mercredi soir, me dit Defecator officiel. J'avais pensé au mercredi soir. Le problème, c'est que mercredi soir, Joe, il peut pas. Et moi, j'aime bien faire des trucs avec Joe. Voilà. Donc du coup, mercredi non. MMG7F propose dimanche soir. Elio Torout dit l'année prochaine je suis en première année de médecine, félicitations d'ailleurs, bravo, ça c'est une belle vocation, ça va être compliqué de te suivre. Oh bah, Elio Torout, à un moment faut choisir, c'est-à-dire, entre apprendre à sauver des vies et à s'occuper de la santé des gens d'un côté et à regarder mes streams, enfin je veux dire, la question elle est vite répondue quoi. Donc à un moment c'est une question de priorité. Après si tu préfères sauver des vies, moi c'est ton problème, ne viens pas te plaindre. À un moment moi, je me décarcasse de mon côté. Donc, études de médecine, première année, soi-disant un peu chargée, là. Faut pas exagérer, quoi. Ah non, mais bravo, en tout cas, à toi. Ah, j'ai des propos. Le dimanche, ça semble. Ouais, mercredi, j'aurais bien voulu, mais si Joe il est pris. Ouais, jeudi, c'est backseat, bien sûr, bien sûr. Tout sauf samedi. Non, samedi, c'est fait. Ah non, famille. Samedi, c'est week-end, c'est famille, c'est les enfants, c'est mon amoureuse. Tu... Bobo Dev qui dit, tu commences à avoir beaucoup de copains, ça va être compliqué. Bah oui, mais bon, moi je veux pas. J'aime pas faire concurrence, même avec mes petits moyens aux copains. Donc, mais c'est chez moi l'ordinateur qui fait du bruit. T'en as pensé quoi de ces deux émissions test que t'as fait, Samuel, satisfait? Bah, c'est à vous de me le dire. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux émissions. Je m'attendais pas à ce que ça ressemble autant à l'émission que je souhaitais. Puis je m'attendais pas à ce que elle plaise autant, puisque manifestement, vous avez bien aimé. Mais c'est à vous de me le dire. Qu'est-ce que lundi? On propose lundi. Ah, mais, ouais, lundi c'est zen aussi, hein. Lundi c'est zen. Et puis il y a Gotha aussi. Il y a Gotaga aussi le lundi. Lundi, il y a du monde sur Twitch. Bah voilà. Dimanche, c'est bien aussi, me dit Camille de ta gueule. Moi, dans ma. Voilà, là, je vous sonde. Mais je ferais bien le dimanche, moi. Dimanche soir. Bon, j'ai sondé ma famille aussi, Hélène. Et elles sont à peu près validées, quoi. Oh non, le samedi, c'est famille. Lundi, il y a MMG7F qui résume l'équation. Lundi, c'est Zen. Mardi, c'est Popcorn. Mercredi, c'est Squeezie. Jeudi c'est Backseat, vendredi c'est l'hebdo, samedi ce sera chez moi avec ma nouvelle émission. Ok, et dimanche il y a R. Bon bah dimanche alors. Dimanche c'est cool en vrai. Dimanche c'est sympa, dimanche soir top. El Chaotique, je commande pas pour l'instant encore France Info, tout ça. Parce que vous avez peut-être vu que je n'ai annoncé nulle part que je quittais France Info ou que je n'ai confirmé aucune information. Je sais que ça a été annoncé par un journal, mais pour l'instant je le commente pas quoi. Ça vous va dimanche? On fait ça dimanche? Ça me plaît? Mario, c'était vraiment top. Ah, merci, Dry, super. Je vous remonte les petits visuels des deux premières ça me plaît qu'on a fait. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième. C'est celle qu'on a faite vendredi soir à la maison. Veux-tu t'allumer, toi? Allez, voilà. Ici. Donc Ken Bogard à gauche qui nous a fait découvrir pendant près de 4 heures le pauvre. Joe, il n'en pouvait plus non plus. Putain, j'aime tellement cette émission que le temps passe trop vite. Quoi. Donc Ken nous a fait découvrir l'univers, non pas de Mario, mais précisément de Super Mario. Et je me suis régalé, on a joué à genre 9-10 jeux, l'évolution du personnage du jeu vidéo pendant depuis 1988, je crois, à nos jours. Voilà. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai aimé. Puis alors c'est formidable parce que tu me montres et tu me fais jouer au premier jeu intégrant Mario, Super Mario. À la fin des années 80, tout le monde les connaît, tout le monde a joué avec, sauf moi, quoi. Et donc moi, je découvre vraiment les jeux, quoi. C'est formidable. Donc je suis en mode, waouh, c'est génial. Et je pense qu'il y a des gens qui regardent, qui disent, mais comment ça, il déconne là, ou quoi, ou il a vraiment jamais, même le, avec les petits pixels. Non, voilà. Et donc moi, j'ai, voilà, donc je me régale. Chaque jeu est et sera une découverte, quoi. Ok, boomer, exactement noir. Bien joué. C'est bien parce que c'est une expression que personne ne connaît, donc c'est assez original. Donc ça, c'était vendredi, et moi, je me suis régalé. Et l'émission a bien plu, puisqu'il y avait pas mal de monde à partager notre petit délire. Ken est juste un mec génial. Ouais, moi, c'est la première fois que je le recevais, et je me suis régalé. Et puis, une semaine avant, autre régalade avec l'ami Kayane, où es-tu? Voilà, pour cette fois, une petite balade de 3h, 3h30, dans l'univers de... Street Fighter. D'où ma blague de débile au début du stream en disant avec Kayane on va jouer à Avenue Fighter, Rue Fighter, Impasse Fighter, Périphérique, Boulevard Périphérique Fighter. La pauvre Kayane dit putain mais qu'il est lourd. Mais qu'il est lourd avec ses blagues de daron là, j'en peux plus. Ah non, Street Fighter. Et là, putain, qu'est-ce que j'ai. Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui à l'autre là? J'en peux plus de ces blagues, j'en peux plus. Bon, là, on m'avait prévenu, mais. M'avait prévenu, mais à ce point-là. MDR, très bonne vanne, dit Pilami. Faut pas m'encourager. Hein. La pauvre. Il y a un vrai. Si vous regardez le replay, il y a un vrai moment de doute dans ses yeux, quoi. En disant, putain, on venait de commencer le stream, on était parti pour 3h, 3h30, et s'est dit, putain, je vais prendre 3h, 3h30 de journaux comme ça. De journaux. nom de d'émission. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est validé. Alors ça aussi c'est validé. En gros, l'hebdo Étienne revient pour une deuxième saison à partir de fin août, début septembre. Ce sera le vendredi. A priori tout va bien. Ça me plaît. Ça vous a plu. Ça m'a plu aussi. Là, c'est normal. Ça m'appelle. Ça me plaît. Va s'installer une fois par semaine à compter de septembre également. On va dire dimanche. Et puis évidemment, on va poursuivre la matinée Étienne et lire les journaux le matin. Plus que jamais et plus qu'avant encore. On va continuer les rencontres Étienne de temps en temps quand j'ai envie de discuter, papoter avec quelqu'un dont je me dis qu'il peut nous, elle, nous raconter des trucs sympas sur sa vision du monde. Eh ben, on va continuer les rencontres Étienne. On va continuer les expositions Étienne aussi, bien sûr. On va aller dans les beaux endroits, dans des musées, dans des expos. On va continuer. Qu'est-ce que j'ai encore comme jeu de mots complètement pourri sur mes émissions l'hebdo Étienne, la rencontre Étienne. La matinée Étienne, l'exposition Étienne, on a fait à peu près le tour. Et puis il y aura ça. Et puis il y aura ça me plaît aussi. Et peut-être, voilà, ça c'est pas sûr ça, qu'il y aura un troisième projet d'émission hebdomadaire qui va peut-être naître à la rentrée. Mais je n'en dis pas plus parce que pour là je suis juste en train de bosser dessus. Voilà, encore un projet d'émission hebdomadaire. Et là, mais là, pour le coup, ça va dépendre des discussions que je vais avoir justement dans les prochains jours. Et ça tombe pile poil le matin, donc je peux pas streamer dans les prochains jours. Voilà. Non, c'est pas la présidence Étienne. Ça, c'est dans 4 ans, ça. Merci, Juroskov, pour le 17e mois. Voilà. Ah oui, la parole Étienne, poum. Je ne me souviens plus du nom, mais tu avais fait des interviews avec des viewers aussi pendant le Covid. Ça, c'est quand je vous donnais la parole au téléphone à l'ancienne, espèce de comment de comment on appelle ça en radio, libre antenne sur des sujets d'actu ou de société. C'était vraiment bien aussi. J'ai manqué de temps pour en faire ces derniers mois, mais en vrai je pense que je vais continuer à en faire, quoi. La cantine, salut, comment vas-tu, est-ce que tu arrives à garder une vie perso? Non, enfin ma vie familiale est essentielle et au cœur de ma vie, et je passe beaucoup de temps même si ça se voit pas avec mon épouse et mes enfants. Après, je n'ai pas de vie sociale à côté. Voilà. Pas de vie sociale. Voilà. Mais depuis très longtemps déjà. Parce qu'à un moment, il ne faut pas tout faire, quoi. Voilà. Mais j'ai des amis de cœur, des amis très importants pour moi. Je ne les vois pas. J'allais dire beaucoup, mais c'est pas la peine. Je ne les vois pas, mais je pense très fort à eux. Puis de temps en temps, je leur donne des nouvelles. Et puis un jour, je bosserai moins et je les retrouverai. Voilà. Umi Isatis, merci beaucoup pour le très gentil message. C'est adorable. Merci pour ce 6e mois d'abonnement. Merci Gags pour le 21e mois d'abonnement. Bon, donc, a priori, dernière revue de presse de cette saison. Voilà. Dernière revue de presse de cette saison. Je suis content parce qu'on a des journaux pas mal ce matin, des articles un peu cool, quoi. Voilà. Merci encore, Umi, pour le gentil message. Ça m'a fait bien plaisir. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée, un indice de cette possible nouvelle émission? Non, je peux pas. Si je vous donne un indice, vous allez comprendre. Je peux pas. Non, c'est pas la sieste Étienne. Oh, ce serait bien ça. Ce serait bien ça. Oh, une émission qui serait la sieste Étienne. Je lance l'émission et je fais une sieste. Oh, putain, je kifferais ça. Ça marcherait ou pas? Vous me soutenez si je lance la sieste Étienne ou pas? Merci Pizza Yo Lo pour ce 14e mois d'abonnement. Vous validez ou pas? Vous regardez? Non, je ronfle pas, c'est pas vrai. Il y a Amélie qui dit je suis sûr que tu ronfles. Je ne ronfle pas. En vrai, j'ai plein de défauts, mais plein. Qu'est-ce que j'ai comme défaut? Plein. Je ne saurais pas par quoi commencer. Mais je ne ronfle pas. Ouais. Il y a chaque espèce qui dit de toute façon sur Twitch presque tout peut fonctionner, donc pourquoi pas la sieste Étienne. Indice, il y aura un jeu de mots un peu nul. Ah oui, je peux vous donner un indice sur l'autre projet d'émission que j'ai à la rentrée. Ce sera une émission avec un titre avec un gros jeu de mots bien pourri. Tu as ma bénédiction, El Solito, bien plus que ça. Alors moi j'ai une pensée très émue pour les candidats au bac cette année là qui commence à passer le grand oral, parce que ça commence aujourd'hui, et je vois que El Solito passe son grand oral dans 3 heures, j'ai besoin de ta bénédiction. Je t'envoie pas ma bénédiction, je t'envoie toute ma force, tout mon courage. Voilà, donne tout, sois hyper concentré sur le sujet, sur les mots, et concentré en même temps détendu. Il faut que tu sois concentré sur le sujet, mais détendu dans ton échange avec les deux, je crois qu'ils sont deux, hein, deux enseignants, deux jurés à t'écouter, à te noter. Voilà, il faut que tu, voilà, il faut que, il faut, voilà, concentré sur le sujet, détendu dans l'expression et dans l'échange. Voilà, ne pas hésiter à écoute bien aussi les deux jurés, parce que ils sont aussi là pour t'aider, d'après ce que j'ai compris. Et ils vont peut-être te relancer à un moment pour t'amener vers des sujets, et ils le font pas gratuitement. Donc c'est peut-être des petites perches qui vont te tenter. Ne les ignore pas, écoute bien, essaie de rebondir. Si tu vois que tu sèches un peu sur un truc, hésite. Je pense qu'ils peuvent te tenter des perches aussi qui vont te permettre de rebondir, de trouver des infos, de faire penser à des trucs et tout, quoi. Merci David pour le simplet. Ta compagne ne va pas trouver bizarre que tu te filmes en direct en train de dormir. Oh, tu sais, ma compagne, des scènes, ça fait longtemps qu'elle est habituée à toutes mes bizarreries. Hein. Félicitations, Wasp, pour le CDD que tu viens de choper. Ça, c'est cool. Bravo. Merci, El Solito. Et ça va bien se passer. Bon, on va lire les journaux, alors. Tu penses... Ouais. Tu penses quoi de Kik? J'en ai déjà parlé, je n'ai pas trop bossé sur le sujet encore. Pour l'instant, ce que je vois de cette plateforme de certains streamers, certaines streameuses qui y vont, pas tous, hein, je ne sais pas qui y va moi. Dans mon entourage d'amis streamers, streameuses, je ne connais personne qui va sur Kik déjà. Donc ça, c'est déjà un aspect intéressant. Personne dans mon entourage. Ensuite, je suis l'actualité. Et les dernières infos à propos de Kik, sur la rémunération, tout ça, je suis tout ça. Mais je vois aussi qu'il y a quand même des profils problématiques dans ceux qui y vont. Pas tous, hein, des profils problématiques. Et donc, du coup, même si c'est peut-être pas la majorité des gens qui y vont, bah, ça donne quand même une image un peu particulière à cette plateforme. Est-ce que moi, même si j'y allais pour faire des trucs un peu sobres, est-ce que pour moi c'est en termes d'image, est-ce que c'est pas un peu naze de m'associer à une plateforme qui justement laisse des contenus problématiques s'exprimer? Bah si, en fait, si, hein, si un peu, tu peux pas faire totalement abstraction de ce que propose la plateforme où tu vas par ailleurs, quoi. Quelque part, en y étant, tu valides un peu, voilà. Quand tu es sur Twitch, ce que je suis, tu valides un peu le fonctionnement. Alors qu'il y a des trucs sur Twitch qui ne sont pas 100% OK. Il y a des trucs dans la modération, dans, je sais pas moi, le partage de la richesse entre la plateforme et les créateurs de contenu, entre plein de choses à améliorer, mais quelque part, en y étant, globalement, tu valides le truc. Tu valides le truc. Voilà. Et ben c'est pareil si tu vas sur Kik. Quack. Chaque fois, je pense au truc de hamburger, je sais pas pourquoi. Eh ben, quelque part, même si tu t'en défends et même si ton contenu est totalement irréprochable, bah, quelque part, tu cautionnes, tu valides, quoi. Alors, après, moi, je me mets à la place des streamers qui débutent ou qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas encore des grosses communautés, qui n'ont pas encore beaucoup de viewers, qui bossent beaucoup, qui donnent, et parfois avec des jolis programmes de qualité, mais qui sont loin d'en vivre et même d'en tirer un petit revenu, quand je vois la proposition financière de Kik, je peux tout à fait comprendre que certaines puissent être tentées, quoi. Parce qu'à un moment, il faut pouvoir bouffer aussi, et c'est pas parce que c'est une passion qu'on n'a pas le droit d'en vivre un petit peu, quoi. Donc je comprends, hein. Je comprends. Tiens, je vous lis là-dessus. Combien de temps durent tes lives en général, l'autoroute? 3 heures pour les revues de presse. 3-4 heures. 3-4 heures pour les autres émissions, genre jeux vidéo, exposition, Etienne, tout ça. Pourquoi pas à la cuisine, Etienne, avec des streamers orientés cuisine? Oui. Pardon. Avec moi, tout est possible. Donc, j'y ai pas pensé, mais maintenant que tu m'en as parlé, je vais y penser. Bien sûr. Ah oui, je suis d'accord, ouais. Oui, psychopathe, mais j'en ai conscience. Hein. Tu peux tomber sur des streams très très sombres sur Twitch, et je suis sûr que si tu ne voudrais pas y être associé, mais ils font deux viewers. Oui, je suis sûr. Après, d'après ce que je constate quand même, la modération sur Twitch, toutes, perfectible qu'elle est, elle est problématique sur Kick, puisque là, la modération a l'air vraiment très, très, très allégée, quoi. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est pas blanc et noir. Parfois, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et s'il y a... Alors, merci, Camille, tu régales. Merci, mais pas Camille, pour les 10 abonnements offerts à la commu, c'est adorable. Et donc, à un moment, c'est pas parce qu'une plateforme n'est pas parfaite qu'il faut aller sur une plateforme qui est encore plus imparfaite, bien sûr. Hein. C'est pour fêter la fin de la saison, merci beaucoup. Un live cuisine avec Sam, dit Alastair. N'oublions pas que cet homme, donc moi, a essayé de faire cuire un œuf au micro-ondes. Je n'ai pas essayé, j'ai réussi à faire cuire l'œuf au micro-ondes. Après, j'ai explosé mon four et j'ai mis 2 mois à le nettoyer. Mais non, je ne suis pas si mauvais que ça, quoi. Merci Bubulosaur, merci pour ton petit message sur Simplay. Sache que l'émission devient hebdomadaire à la rentrée. Voilà. Comment ça, dernier stream? Oui, dernier stream de la saison. Dernier stream de la saison. Mon meilleur souvenir de mes 3 ans sur Twitch, ah, j'arrête pas, Mats, hein, c'est pas un au revoir. Hein. Mon dernier. Je sais pas, j'ai eu. Enfin, j'ai eu tellement de jolis moments ici. Moi, j'aime bien mes rencontres, Étienne, notamment parce que quand je me retrouve face à face avec un invité, ça peut être Soprano, ça peut être Franck Gastonbide récemment, ça peut être un streamer, ça peut être un Zera, un PA, ça peut être Trivia. Il y a un moment quand on prend le temps. Et c'est ce qu'on fait sur Twitch en général et dans la rencontre Étienne, et qu'on prend le temps, qu'on a le temps des questions, qu'on a le temps d'écouter les réponses. Il y a un moment où on rentre un peu dans le, on arrive au noyau, quoi. On arrive au cœur, on arrive à l'essentiel et à un peu des confessions sur pas forcément la vie privée, on s'en fout ça, mais sur le mode de fonctionnement, sur les valeurs, sur plein de choses. Et là, il y a des moments très émouvants, quoi. Bon, je vais pas revenir sur ce que Soprano a annoncé sur cette chaîne, par exemple, mais moi ça m'a retourné. Franck Gastambide a dit aussi des trucs sur la violence des réseaux sociaux, comment il le vivait lui en tant qu'hypersensible et tout. Bon voilà, il y a des moments très forts comme ça. C'est pas, certains bons moments parmi d'autres. Mais ça me plaît, il y a eu deux pour l'instant, mais je me régale. Hebdo Étienne, on rigole pas mal aussi. Voilà. Non, je dirais pas l'interview de Jean Castex, non. Voilà. Qui est sûrement un bon gars, mais qui en tant que Premier ministre ici n'avait pas une parole super libérée. Mais non, beaucoup de... Et puis même mes tout débuts, quand je n'étais pas streamer, mais que j'étais invité par Étoile, bien sûr, dans ses streams, invité par Ponce aussi, invité par Zera et Dash à mon premier The Event, quand je n'étais qu'un observateur. J'ai beaucoup aimé ces moments aussi, parce que je ne songeais à aucun moment à devenir streamer. Je suis assez lent du bulbe, moi pas très rapide dans la réaction. Mais ce que je découvrais me fascinait en fait. Et c'était des bons moments en fait. Je me rappelle de ça. L'insouciance, quoi. Le temps de l'insouciance. Oh non, remettez pas une pièce dans cette histoire là. De React. Mais elle est drôle. Elle est drôle. Tu m'as fait rire, Clément. Tu m'as fait rire. Merci, Tom49As, pour le 7e mois d'abonnement. J'ai vu Medellin, ouais. De Franck Gaston, mais je l'ai vu. Moi, je suis assez. J'avoue que. Bon, après, je pense que mon jugement est faussé parce que j'aime beaucoup Franck Gaston Bide, son parcours et l'homme. Et donc, quoi qu'il fasse, j'aime. Même, voilà, ça peut être débile, nul, raté, j'aime. Donc, voilà. Je suis pas très. Mais moi, j'ai aimé Medellin. Oui, ah oui, la fois où j'ai pété à l'antenne aussi, ouais. En direct de Roland Garros, ouais. Ouais, ça aussi, ça. Ça aussi, c'était un bon moment. C'était un bon moment. J'adore. Non, t'as pas loupé le sommaire, et mec, on est juste à la bourre. Jean-Sébastien, bonjour Samuel. Alors, voilà une bonne question. Quelle était l'audience de la visite de samedi? Donc, je vous rappelle que samedi, on a fait une nouvelle exposition Étienne en direct de Rennes, du couvent des Jacobins, pour une exposition d'art contemporain, d'art moderne, qui est ici, hein, qui est l'exposition Forever 60s, qui vient de démarrer le 10 juin dernier à Rennes, au couvent des Jacobins, qui va durer jusqu'au 10 septembre, et que je vous recommande, qui est superbe. Alors après, bon, l'audience n'était pas très importante, mais l'audience n'est pas tout. Donc il y a vraiment des émissions que je fais... dont je me fiche un peu de l'audience, parce que l'important pour moi est de la faire. Donc l'audience était par rapport à la moyenne de mes streams, faible, même par rapport à mes revues de presse. Donc c'est vrai que j'étais un peu surpris parce que je trouvais que l'offre était plutôt sympa. C'est une très belle exposition, c'est un très beau lieu. Mes streams de musée d'exposition précédents avaient marché beaucoup plus fort. Donc j'étais un peu surpris, mais en même temps, l'audience n'est pas tout. Par contre, il y a un truc, mais il faudra que j'en parle avec les modos. Moi, j'étais sur le chat un petit peu pour voir les réactions. Et en fait, je sais pas, alors je sais pas si je suis mal tombé, mais je suis tombé sur... À un moment, je faisais des messages de gens qui manifestement ne s'intéressaient pas du tout à l'art, encore moins à l'art contemporain et à l'art moderne, et qui disaient vraiment des débileries, mais absolues, quoi. Mais absolues, c'est-à-dire des gens qui, même sans s'intéresser à l'art ou à l'art contemporain, mais des commentaires, mais des débileries, quoi. Et j'ai jamais ça sur aucune de mes propositions, d'ailleurs. Et donc, je ne sais pas ce que faisaient ces gens, s'ils étaient perdus, s'ils avaient été payés. J'ai halluciné, quoi. À un moment, j'ai même envoyé un DM au Modo en disant mais c'est moi ou il y a vraiment des débileries dans le chat, quoi. J'ai pas compris. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de streams au même moment sur Twitch et puis maintenant sur Kick. Et je comprenais pas ce que ces gens qui étaient pas très nombreux mais qui disaient vraiment n'importe quoi venaient faire sur ce stream, en fait, puisque manifestement ils comprenaient rien, quoi. Alors après, c'était un peu... c'était pointu, hein. Moi, il y a des moments, j'avais du mal aussi. Mais vous voyez, en fait, pourquoi ils viennent, en fait. Voilà. Je pense que... Mais il faut que j'en parle avec les modos, parce qu'après, les modos m'ont dit non, ils n'étaient pas très nombreux, finalement. Voilà. Après, l'audience, qui était une audience faible, hein, par rapport à ce que je fais d'habitude sur Twitch, ça, c'est pas grave. Ça, je m'en fiche. Parce qu'en fait, l'audience, elle signe de rien du tout. Tu peux tout à fait, en télé, en radio, comme sur Internet, faire une très grosse audience sur un truc qui n'est pas forcément bien, intéressant, intelligent, pertinent. Et tu peux aussi faire des tout petites audiences sur des programmes de qualité qui nécessitent d'être faits, quoi. Donc, faire une audience faible sur un stream comme ça, moi, ça me va. Après, s'il y a plus de monde, tant mieux, parce que je me dis qu'on partage le truc avec plus de monde. Mais ça ne me gêne pas du tout, quoi. Et puis de toute façon, c'est compensé par d'autres streams où il y a un peu plus de monde. Mais en revanche, le chat est un peu bizarre, quoi. Une partie du chat. Bon, après, ça nous a permis d'aller prendre des coups à Rennes, aller prendre des bières après. C'était sympa. Y a-t-il qui dit, et j'avoue que l'expo Étienne, j'ai tendance à la regarder en plein écran sans le chat pour mieux profiter des visuels. Bah, samedi, t'as eu raison, hein, samedi, de pas mettre le chat. Hein. Ouais. C'est bizarre, j'étais surpris un peu, ça. Parce que d'habitude, il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas ça ici. Genre une Corona. Non, c'était pas une Corona, je ne l'ai pas bu cul sec. Il y a King Julian qui dit un petit aperçu de ce que vivent les femmes sur Twitch. Ouais, t'as raison. Effectivement, je pense que ça peut être un petit aperçu de ça. Et dans ce cas-là, c'est juste insupportable, quoi. Ouais. Merci Jean-Sébastien, et j'espère que tout va bien. Allez, on va faire une petite revue de presse maintenant. A priori, peut-être sans doute la dernière de cette saison. Voilà, et après je fais un petit break de 3 semaines, 1 mois, et je reviens fin juillet pour streamer genre everyday. Voilà, mais c'est vrai que... J'ai bu une bière bretonne quand même. Peut-être qu'elle était bretonne, ouais. Non, c'était pas une petite 8-6 devant la gare, mais on est allé dans les rues de la soif, là. Les rues qui ont très très soif le jeudi soir, qui ont très soif le vendredi soir, qui ont très, très soif le samedi soir. On était en haut des Lys, pour ceux qui connaissent. On s'est fait deux bars avec Joe, avec Pépin, avec Foki. Voilà. Et on s'est un peu réhydraté. Voilà. Avant de repartir sur Paris le lendemain, mais c'était sympa et les gens étaient adorables. On a croisé plein de jeunes rennais, rennaises, bretons, bretonnes et les gens étaient adorables, hyper gentils, c'était cool. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'être avec moi ce matin. On fait une petite revue de presse. On va beaucoup parler de transport aérien, d'aviation, d'aéronautique, parce que c'est le salon du Bourget. C'est très présent dans vos journaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la réflexion sur est-ce que l'avion peut être verdi, peut devenir vert, peut moins faire de mal à l'environnement qu'il ne le fait aujourd'hui. C'est un grand débat. Et alors aujourd'hui, on va beaucoup évoquer ce débat parce que c'est à la une de beaucoup de journaux. Et du coup, et on a des articles qui sont vraiment très intéressants. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est le gros sujet du jour. Et pour le coup, c'est un sujet que je trouve essentiel. Salut Founti, merci beaucoup pour le message et pour le 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ouais. On y va ? Il faut beaucoup de peinture. Ouais, pour faire un avion vert, il faut beaucoup de peinture. Bien sûr. On va en parler. Je sais que ça crée beaucoup d'interrogations, voire de méfiance. Il y a Stunt Logo qui écrit à l'instant dans le chat avion vert, mais bien sûr. Ouais. Moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus, mais vous verrez. Il y a des éléments de réflexion extrêmement intéressants dans les articles que je vais lire. Un Arménien au Panthéon aussi, ouais, un résistant, hein. Bonafleur, on va en parler, c'est très important. C'est la une de l'humanité ce dont tu parles. Et ça, je tenais à vous en parler ce matin. Ouais. Hmm. Go ? Est-ce que j'ai votre go ? Est-ce que j'ai un yes ? Est-ce que j'ai ça ? Est-ce que vous me donnez un yes pour le petit sommaire ? Sommaire, puis après je vous lis tout ça. Le sommaire, c'est 10 minutes d'actu. Voilà, l'essentiel en 10 minutes. Comme ça, ceux qui peuvent pas rester 2-3 heures avec nous, vous avez l'essentiel. J'ai un yes, j'ai un yes baby. Eh bien, on y va, on allume la caméra zénitale avec un Z, puisque si on change cette lettre, eh bien, ça n'est plus. C'est un autre mot. Hop, hop. Ici, on y est. C'est parti. Alors, est-ce que ça marche ?
Mais ça marche très très bien.
Ça marche très très bien, on va mettre les journaux ici. C'est parti pour le sommaire. Alors, voilà. Alors, souvent je vous dis, moi j'aime tous les journaux, je lis tous les journaux, mais c'est comme, ils sont comme nous, certains sont plus en forme selon le jour. Et là, vous avez un très bon Lacroix. Alors, si vous voulez lire un dossier sur l'aéronautique, le salon du Bourget, l'avion et toutes les questions sur l'environnement, le réchauffement climatique lié à ça, eh bien, je vous conseille d'acheter La Croix aujourd'hui. Hein. Le dossier est extrêmement bien fait. Hop, on lira ça tout à l'heure. Hein. Est-ce que l'avion peut passer au vert ? Et si oui, comment ? Voilà. Dans combien de temps ? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous ? L'avion zéro émission en 2050, puisque c'est l'objectif. Est-ce possible ? Ça, c'est dans La Croix. Hop. Les Échos consacrent leur une, devinez à quoi ? Eh bien, à ce salon du Bourget, qui est le plus grand salon de l'aéronautique au monde, hein, je crois. Voilà, 4 ans d'absence et le Paris Air Show qui débute aujourd'hui au Bourget. Je crois que le président Macron est attendu d'ailleurs ce matin. Zéro émission. Il y a Golden Raptor qui rigole et qui a raison parce qu'il manque un mot. Qui dit zéro émission, MDR pas possible. En fait, l'expression complète, c'est zéro émission net. Voilà. Et donc, on va en parler. Croissance, pollution, les nouveaux défis de l'aéronautique. Bim, c'est la une des Échos. Pour vous montrer que le sujet est très présent. La preuve, je prends le Parisien et bim, on remet ça avec un coup de projecteur cette fois sur Air France. Air France KLM, le groupe français. Comment Air France veut décarboner l'avion. C'est le directeur général d'Air France qui explique pourquoi notre pays peut devenir championne, la France, de l'aviation durable. Voilà. Donc, on lira le coup de projecteur sur Air France, qui a envie de jouer cette carte-là. Et je voulais aussi vous lire, il y a plusieurs articles dans la presse là-dessus ce matin, mais j'ai choisi celui du Parisien, ce papier sur ces 4 hommes, je crois que l'un est mineur d'ailleurs, arrêtés, un quatuor d'ultra-droite aux assises, les accusés dont un ex-militaire échangeait sur un forum Discord, je crois, Waffenkraft, créé par l'un d'eux, abreuvé de textes violents. Ils avaient participé à une séance de tir en forêt et envisagé des cibles. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ultra-droite, quelle est cette définition de l'ultra-droite qui est en fait une définition des services de renseignement français par rapport à l'extrême-droite, qu'est-ce que ça veut dire ? On lira ça et puis on lira qu'est-ce qui est reproché à ces 4 personnes. Voilà, il y a Chey qui résume l'ultra-droite, c'est la droite de Zemmour. C'est pas tout à fait ça, mais un petit peu quand même. Voilà, quelqu'un m'en parlait tout à l'heure. L'humanité consacre, merci Luma, sa une à cette entrée prochaine au Panthéon de Méliné et Missak Manouchian au nom des étrangers de nos frères pourtant. À l'occasion d'un hommage aux fusillés du Mont Valérien, La République reconnaît enfin, écrit Dumas, le rôle joué dans la résistance, et de ça dont il s'agit, par le communiste arménien qui est donc Missak Manouchian, et son épouse, qui vont tous les deux entrer au Panthéon. Ce sera bientôt. Et à travers eux, ceux de tous les FTP-MOI. Et là, on parle de tous les résistants étrangers, apatrides, des gens qui venaient de plein de pays et qui, à un moment, se sont battus pour la France, pour une certaine idée de la France, une France libre, une France qui n'était pas à la botte des nazis ou du régime de Pétain. Au Panthéon, la résistance communiste étrangère, parce que par ailleurs, il était communiste. Dossier extrêmement bien fait dans l'humain. D'ailleurs, c'est pas le seul journal à en parler ce matin, c'est un sujet qui est vraiment important. Voilà. Un héros, dit Babacool, exactement. Exactement. Ouais, ouais, c'est l'histoire. D'ailleurs, il a été tué, il a été, je crois qu'il a été fusillé. Ouais, je crois qu'il a été fusillé. Un dossier sur l'Iran dans Libération, il y a quelques semaines, on en parlait quasiment tous les jours, vous savez, de ces manifestations nées en Iran après la mort d'une jeune iranienne qui avait été interpellée par la police des mœurs, parce qu'il y a une police des mœurs en Iran, qui avait mal porté son foulard sur ses cheveux, son voile sur ses cheveux, voilà. Et donc ces manifestations monstres qui ont duré des semaines en Iran, avec une répression très 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 forte, ces manifestations aujourd'hui se sont éteintes, voilà. Mais elle pourrait peut-être, nous dit Libération, reprendre en fait ces manifestations. Pourquoi ? Parce que il y a une grave crise économique et sociale nourrie par l'inflation, la hausse des prix en Iran. C'est une dinguerie. Hein. Oubliez les quelques pourcents que nous avons chez nous. En Iran, on parle de 70% ou plus de 100% d'inflation. Et ça crée des situations vraiment dramatiques. Et vous avez une vague de suicides en Iran. Vous avez des Iraniens qui proposent de vendre leurs organes tout simplement pour pouvoir subsister, survivre, manger quoi. On lira ce dossier dans Libération qui nous en parle ce matin, merci beaucoup. Et on finira avec le Figaro, avec une fois n'est pas coutume un petit peu de politique. On finira donc avec une petite douceur, avec une question qui est certes politique, politicienne, mais qui n'est pas inintéressante. Je veux parler du remaniement. Vous savez que le remaniement gouvernemental, ministériel, c'est un des outils, une des armes que un président, un chef de l'État, un président de la République, sous la 5e, a à sa disposition pour, à un moment, redonner un petit peu de la vigueur à son action. Voilà. Le gouvernement, à un moment, est un peu usé, certaines individualités peuvent, réussir leur passage dans un ministère et d'autres, au contraire, le rater. Et dans ce cas-là, eh bien, on change un peu l'équipe, tout ou partie. Remaniement total ou remaniement partiel. Ce qui est assez classique aussi, c'est de changer le Premier ministre, hein, l'incarnation du pouvoir exécutif, ce qui permet un petit peu au chef de l'État, au président de la République, puisqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de président sous la 5e, de redonner un petit peu d'élan et d'allant à son action. Donc, tout le monde s'attendait à ce que Elisabeth Borne soit remerciée pour être remplacée par un ou une nouvelle première ministre. Hein. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle va être remplacée ? Est-ce qu'elle ne va pas durer encore un petit moment ? Et à Mona Flore qui dit ça fait un an que les journalistes en parlent mais jamais rien. Non, c'est un petit peu erroné ce que tu dis, puisque le président Macron a été réélu il y a un an, à peine un peu plus d'un an, et a nommé Elisabeth Borne à Matignon à cette occasion. Donc ça ne fait pas un an qu'on parle du remplacement d'Elisabeth Borne, puisqu'il y a un an, en fait, elle était nommée. Depuis quelques semaines, effectivement, on parle d'un remaniement, notamment parce que la réforme des retraites a laissé des traces. Mais ça ne fait pas un an qu'on en parle, et pour cause, elle a été nommée, grosso modo, il y a un an, un petit peu plus d'un an. Voilà pour le sommaire de ce matin. Il y a des choses intéressantes, hein, de l'international, de l'histoire, de l'environnement, du climat, du transport, un peu de politique, voilà. Et puis les quatre zozos d'ultra-droite aussi. Je vous lis un petit peu. Remaniement, enfin la consécration pour Darmanin. Ouais, c'est une des pistes qui est évoquée. Moi je peux me tromper totalement, je ne vois pas du tout le président Macron nommer le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Matignon, mais je peux me tromper, quoi. Il y a plein de noms qui circulent. Hein. Gérard Larcher, le président du Sénat, donc pour prendre clairement un homme de droite, François Bayrou qui serait pas contre, même s'il vient de dire que finalement non. Voilà, il y a le ministre de l'économie aussi qui est l'une des pistes. Voilà. Bon, enfin, en la matière des pistes, il y en a plein, mais un heureux élu ou une heureuse élue, il y en a qu'un, il y en a qu'une. On me signale que Samuel Etienne va rentrer au gouvernement Info ou Intox, écrit Mix PRTZ. Merci encore pour ton sub de tout à l'heure. Merci Le Faboun pour le 8e mois d'abonnement. Si vous êtes attentif, vous noterez que depuis quelques semaines, je suis quand même extrêmement mystérieux sur mes projets. Un journal a annoncé mon départ de France Info. Je n'ai pas confirmé, je n'ai pas commenté. Je dis que j'arrête ma saison là, de Twitch un 19 juin. Et mon emploi du temps de ces prochaines semaines n'est pas très très clair. À un moment, posez-vous des questions. C'est quand même bizarre. Si vous regardez bien, c'est un peu louche. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que je vais accepter des responsabilités ministérielles? Non, je vais pas aller sur Kikre, non. Soyons sérieux. Est-ce que je vais accepter des responsabilités ministérielles? Est-ce que je vais devenir un pilier de la Macronie? Est-ce que je vais faire mon entrée à Matignon? On ne sait pas. Ah, c'est mignon, Falme. Papa, un troisième enfant? Moi, j'adorerais. Les enfants, j'aimerais en avoir un milliard. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ministre de la revue de presse, j'adorerais. Ouais. Oh, tu pars escalader avec Inox, incapable de faire ce que Inox s'apprête à faire. Sur l'Everest, là, baklava pistache. Vous avez vu là ce qu'il a. L'ascension qu'il a fait récemment en prépa, là. Vous avez vu les images? Incapable de faire ça. Ministre de la caféine, ouais. Président de France Télé, non. La présidente vient d'obtenir un deuxième mandat, donc c'est non. Oh, c'est mignon parce que vous êtes plusieurs à me demander si je vais être papa à nouveau. Oh, c'est trop chou. Oh, j'adorerais en vrai. J'adorerais. Sur CNews pour remplacer Pascal Praud qui part à Europe 1. Non, a priori, non. Non. Tu ne vas pas nous quitter. Je ne pense pas une seconde. Tu kiffes trop ton job, dit Denis Lamalisse. Pas faux. Nouveau maire de Rennes, je crois qu'elle est bien la maire de Rennes là. Pourquoi voulez-vous que je remplace la maire de Rennes? Ouais. Samuel avec un projet de monarchie absolue, un royaliste dans l'âme. Est-ce que c'est pas un peu tôt de quitter France Info pour lancer sa campagne présidentielle, dis-lui ça. Je vous rappelle que ma campagne présidentielle, je la lance en 2027, 6 mois avant le premier tour. Voilà, pour surprendre tout le monde et prendre tout le monde de vitesse. Les gens vont rien voir. Voilà, campagne express sur les réseaux sociaux, essentiellement sur TikTok. Voilà, et là, on casse tout et bim! Mystère! Ouais, je sais, moi aussi, Bripin, hein, je vais être triste. Mystère. Enfin, il y a du mystère quand même. Ribose, Charlene Van Hunecker va te détester si tu prends sa place. Où ça? À France Inter? Mais c'est une humoriste, Charlene Van Hunecker. Je suis incapable de raconter une blague, moi je suis nul. Remplacer Charlene. Et encore faudra-t-il que je puisse faire rire les gens, hein? Je ne sais pas raconter une blague, c'est-à-dire je ne me rappelle jamais de la chute déjà. Donc, non. Hâte que tu streames depuis l'Elysée. Imaginez. Tous les matins, le petit stream depuis l'Elysée, quoi. C'est quelque chose. Ah, merci, Cyril. Alors là, on est bien d'accord, tu es vraiment nul pour raconter des blagues. Bon, ça, je vous le dis. Amélie est partie sur une piste qui est la chirurgie esthétique. Voilà. Si vous me retrouvez en septembre à 1m85, des pecs comme ça, un petit fessier rebondi, voilà, des jambes allongées, 20 cm chacune, et quoi d'autre encore, un petit peu tiré, lifté, quoi d'autre, je sais pas comment on dit, repulpé, pimpé, je sais pas, avec les cheveux bien noirs, bien bouclés, dans ce cas-là, cette piste d'Amélie sera la bonne. Sinon, ce sera une erreur. Ok, il y a Sandrine qui dit arrête, tu m'excites. Ok, d'accord, ok. Bon, je... C'est la chirurgie esthétique qui vous fait ça? La Turquie pour l'implantation de cheveux, ça va, j'ai assez de cheveux, j'ai pas besoin d'en remettre en vrai, ça va les cheveux pour un vieux truc comme moi. Ouais. Ah, et le déménagement, personne n'y a pensé. Tégolek qui l'évoque. Hein, et si tu déménageais à Montpellier parce qu'il fait plus beau? Un petit déménagement. Ah, et si tout ça cachait. C'est dur à dire. Et si tout ça cachait un déménagement? La Bretagne, le Maroc, Montpellier, Créteil. Non, Créteil, non. Oh, c'est méchant ça. Il y a Teenage Turtles qui. On parlait de chirurgie esthétique et qui dit oh my god, il va se faire la tête de Julien Lepers. Hacherad, elle est bizarre ta blague là. Pff, c'est hardcore. Il y a des blagues dans le chat, c'est hardcore. Hein. La Corse. Ah, la Corse, je kifferais la Corse. Dubaï, non. La Corse, ouais. Hein, la Corse, ouais. Malte, non. La Corse, ouais. Melun, non. Carcale. Je suis allé une fois à Melun pour acheter une moto. Ça va, ça m'a su. Non, ça m'a... J'ai rien contre les... Comment on dit les meules, les meules. Les habitants, comment on les appelle les meules. Comme les meules de fromage. Mais non, Melun, non. Comment on habite les Melunois. Oh, sérieux. C'est... On dit pas... On dit... Ah bah, il n'y a personne qui est d'accord. Melunais, Melon, Melinois... Comment dit, les Meldois, Malinois, le Malinois c'est les chiens. Bref, non, non, Melun, non. Oui, oui, il y a Maximax qui habite à Créteil et qui en capitale a hurlé dans le chat. Quoi, Créteil, non. Oui, ben c'est non, j'ai rien contre les. C'est quoi les Créteillois, Créteillois, les Créteilloises. J'ai rien du tout contre les gens qui sont très gentils qui habitent là-bas. C'est juste que voilà, c'est pas là que je veux aller quoi. Hein, y a la... Ouais. Salut Bruno. Ouais. Non, j'ai dit Malte, non. Dubaï, j'ai dit non. Bretagne, je dis oui. La Suisse, je connais pas la Suisse. Je me suis arrêté une fois dans une station-service en Suisse, c'est tout. Je ne connais pas la Suisse. Où est-ce que vous voulez que je m'installe? Ah, ça, vous êtes plein à vouloir que je vive en Suisse. Alors Hélène, mon amoureuse, elle travaille dans l'horlogerie. Donc à un moment, ça pourrait presque être logique qu'un jour, elle ait envie de travailler en Suisse. Elle m'en parlait pas plus tard que ce week-end, tiens. Et je lui dis, moi, je te suis, moi. Hein. L'homme, il peut aussi, comment dire, ça peut être lui qui suit aussi les promotions de son épouse, quoi. Let's go. Et après, j'ai oui, mais comment je fais venir mes invités dans mes streams, l'hebdo Étienne, ça me plaît et tout, là. Depuis en Suisse, quoi. V'là les coûts de transport, quoi. Mais sinon, ouais, en Suisse. Oh, imagine, pars en Suisse. Donc, ce serait donc une décision d'amour pour suivre mon épouse, puisque de l'horlogerie, les montres, il se passe pas mal de choses là-bas. V'là, chez nos amis de Twitter, comment ce serait analysé, quoi. Samuel Etienne en Suisse? Ok. Alors, moi, je vais vous dire, moi, prisu 27. Sur Twitter. Moi, je vais vous dire ce que ça veut dire, Samuel Etienne en Suisse. Moi, je vais vous dire parce que moi, je sais quoi. Non, c'est par amour en fait. Moi, je vais vous dire ce que ça... Vous imaginez. Oh, je pourrais pas aller en Suisse. Catastrophe. À l'heure des réseaux sociaux, tout ça là. Vous imaginez les réactions, les commentaires. Ça va bien se passer, Dredray. Super, ça va bien se passer. Hein ? On est d'accord que ça passera pas. Merci, Hello Rookie. Pour le 9e mois. Merci Petite Street, je t'ai vu tout à l'heure, merci pour le 5e mois. J'invite Tonton tous les jours. Mais oui, bien sûr que j'inviterai Tonton, mais ça ne suffira pas. Bagheera est en Suisse aussi. Merci Kivan pour le 4e mois d'abonnement, c'est direct sur mon compte en Suisse. Merde, putain, ça veut dire que je le dirai pas. C'est direct pour mon compte la banque postale. Je suis vraiment à la banque postale en plus. Ouais, voilà, évasion fiscale, bien sûr, Ticlem, bien sûr. Merci The Voyager pour les bits, c'est pour mon compte en banque en Suisse. Alors, les réactions sur Twitter, ça donnerait... Je vous adore. Où est-ce que vous avez cette imagination? Ça, les gros titres de mon départ en Suisse, par amour, donc je le rappelle, ça donnerait dans la bouche de Rin Sevent. Samuel Etienne, accro au chocolat, quelle honte. Évasion fiscale, bientôt un compte aux Caraïbes, dit Monsieur le Chat. Bagara est suisse, mais elle n'y habite pas. Ok, d'accord. D'accord. Elle est à Montpellier. Ouais, mais Montpellier, c'est un peu la Suisse du Sud, non? Va, Montpellier, c'est Twitchland. Non, mais quitte à partir, je partirai pas à Montpellier. Parce que c'est pas une ville où j'ai des. Que je connais bien, que j'ai pas des accro. J'ai pas d'histoire familiale. Non, Bretagne, oui, Bretagne. Corse. Bretagne, Corse. J'adore l'Angleterre, le Royaume-Uni. Voilà, c'est toujours kiffé ça. Alors après, mon amoureuse, elle aime le chaud et le sec. Donc, Bretagne, Royaume-Uni, Écosse, Irlande, tout ça. Ça se vend pas facilement à la maison, quoi. Ouais. Suisse, pourquoi pas? Mais je connais pas. Ça pourrait me plaire, vous croyez? Où ça, en Bretagne? Oh, je sais pas, partout, partout en Bretagne. La Bretagne, c'est. Royaume-Uni ou Londres? Les deux, mon capitaine. Le Pays Basque, ça ferait plaisir à Hélène. Les Bahamas. Et la Normandie dans tout ça. Bichard. Bichard, je suis breton. Quand on est breton, on va pas en Normandie. Enfin, on est d'accord que. C'est très subjectif ce que je vais évoquer comme idée, mais d'accord que la Normandie, c'est comme la Bretagne, en un peu moins bien. Donc quand tu es breton, tu n'es naturellement pas attiré vers la Normandie. Le climat, c'est le même, hein, tu vois, c'est bon, voilà. Le patrimoine, bon bah pardon. Hein, voilà. La gastronomie, bon, il y a la Turgoule, je crois, en Normandie, un truc comme ça. Bon, ça va, quoi. La côte bretonne, quoi, les gars. Donc, no offense, les Normands, les Normandes, mais quand t'es breton, tu vas pas en Normandie, quoi. Quitte à aller te prendre de la flotte, tu rentres chez toi, quoi. Hein, on est d'accord. La Bretagne, Normandie, sérieux. Il y a friction qui, du coup, unfollow. Je blague, hein, je blague. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je connais pas. En vrai, je connais pas Normandie. J'ai dû y aller deux fois dans ma vie. Ce que je dis, c'est qu'un Normand, un Breton, il est normal qu'il ne soit pas attiré par la Normandie. C'est trop proche en termes de. C'est trop proche de ce qu'il connaît déjà, quoi. Donc, quitte à aller chercher de la pluie et des embruns, bah, tu restes chez toi, tu restes en Bretagne, quoi. Il y a French Wanderers qui dit jaloux tout ça parce qu'on a le Mont-Saint-Michel. Non, 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 non. Calmez-vous, les Normands, avec le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, vous l'avez. Tout le monde sait que vous l'avez, le Mont-Saint-Michel, parce qu'on a bien voulu vous le laisser. Parce qu'à un moment, entre Bretons, on s'est réunis à un moment, il y a longtemps, et on s'est dit, bon, on va leur laisser ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils ont, quoi? Les Normands. Qu'est-ce qu'ils ont, quoi? Ah oui, mais quand même, le Mont-Saint-Michel, c'est historiquement. Le coup est non, tout ça, puis ça devrait être à nous. Laissez-leur. Franchement, regardez les pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont, les Normands? C'est comme ça que le Mont-Saint-Michel t'arrive en Normandie, en fait. C'est un cadeau des Bretons. Tout le monde le sait, ça. Ne mettez pas ça dans une copie de bac. Hein. Ceux qui passent le grand oral au bac, là, dans les. Ça commence aujourd'hui, là. Ne dites pas ça à l'oral. Hein. C'est. Surtout pas un Normand. Portugal, j'aime bien. L'Espagne, j'adore l'Espagne. J'adore l'Espagne. Bichard, il fait meilleur en Normandie qu'en Bretagne. C'est ça. La marmotte, ses petites pattes, tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, vous aviez pas que le Mont-Saint-Michel, c'est parce qu'on leur avait laissé. Ah bah si, quand même. Il y a David qui dit, j'adore votre humour, Samuel. Non, 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 mais je ris pas là-dessus. Hein. Non, non, non. Merci, Chloé, c'est super gentil. Oh, ça me fait plaisir. Coucou Sam, coucou la modération, coucou le chat. J'ai adoré le samplay avec Ken. Ken Bogard, même ma copine a suivi alors que c'est pas son truc le jeu vidéo. Alors là, Chloé, tu me fais plaisir. Non, je lance sur la Bretagne et la Normandie. Moi, je ben, pas d'humour. Hein. On est pas là pour rigoler. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Non, là je ne ris pas. Je ne ris pas. Bien sûr. Oh, merci Gargantosaur, vous êtes super. Merci Zoveja pour les bits. Merci Kivan pour le quatrième mois d'abonnement. Bon, c'est pas tout ça. On se fait une petite revue de presse. 55 minutes d'intro. Voilà. Là, on est sur de l'intro. Fanfi, tu n'es pas en retard. Là, on est sur de l'intro. Voilà. Là, on s'est dit bonjour. On s'est raconté nos vies. On a parlé de l'actualité de cette chaîne, ou plutôt de ce départ très mystérieux là, aujourd'hui, puisque je vais disparaître de Twitch et de tout d'ailleurs pendant un mois. Et on a parlé de tout ça et on a fait un petit sommaire. Et maintenant, on va pouvoir commencer la revue de presse. Voilà. J'ai votre go, j'ai votre yes. Et si pour la dernière, on battait le record de l'intro ? Non, il y a des gens qui viennent s'informer ici. C'est Idriss qui propose qu'on... Et si pour la dernière, on battait le record de l'intro ? Non, parce qu'après, il y a des gens qui... Hein ? Intro, c'est trop. Stunt le go. Ça me rappelle son téléphone, ça. Excusez-moi. Attends, je vais aux toilettes, bouge pas, Crotlax. Écoute, Crotlax, tu montes le son. Voilà, tu vas faire ton petit truc, tu nous écoutes, quoi. T'inquiète, et toi, nous habituer aux intros de 3 heures. C'est pour ça que mes intros sont longues. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas ma faute. Mais oui, j'ai été à bonne école ou à mauvaise école. Et oui, c'est vrai que Rayou, il nous fait des intros de fou, quoi. C'est vrai, ça, ce que vous dites. Hein ? Argent, oh, c'est ça, argent trop cher. Argent trop cher. Tintin. Exactement, téléphone. C'est la faute de Rayou. Vous lui direz d'ailleurs. J'ai un go, j'ai un yes. On y va pour la revue de presse ?
Pour yes.
Ok, c'est ok, c'est ok. J'espère que ça s'est bien passé. Il y a Astromoon qui rentre de son grand oral. Ça tombe bien. Métro, c'est trop ! Voilà. Il y a Magla qui a déjà fait des intros de 4 heures, me dit Minos. Waouh. Ouais, c'est métro, c'est trop, vous avez raison. Pas argent trop cher, vous avez raison. Les modos, faites remonter l'info, le son est trop bas, dit Rosa. Non, le son est trop bas chez toi. À un moment, faut t'équiper, Rosa. Hein. Ça, faut pas. Oui, c'est pas parce que tu nous écoutes sur un vieux Nokia 3310 là qu'on va monter le son, on va casser les oreilles de tout le monde. Voilà, à un moment, il faut t'équiper. Hein. Voilà. D'ailleurs, French ou Guillaume te répond, bam, le son est très bien pour tout le monde, bam, Nicolas Ma, le son est parfait, tout va bien avec le son, dit Aurette, voilà, le son est top, là-haut, donc voilà, mais quelle idée de nous écouter sur un Nokia ou sur un Minitel, ça se trouve, tu nous écoutes sur un Minitel, à un moment, Rosa, j'ai Snake, oh Rosa, oh, quelle nostalgie, il y a Rosa qui rigole, qui dit, j'ai Snake dessus, parle pas mal, Snake, le petit jeu sur Nokia 3310, là, ah ouais, je me rappelle. En tout cas, voilà quelqu'un qui a de l'humour parce que je l'ai gentiment chambré et hop, il enchaîne. La classe. Twitch sur un Nokia, j'aimerais bien voir ça. Bah non, justement, Noir, tu pourrais pas, si je puis me permettre. Faites rire sur le son. Allez, on ligo et on gueule dans le micro pour ceux qui sont un peu âgés dans ce chat et qui n'entendent pas très très bien parce que voilà, avec l'âge ça arrive. Après c'est normal de pas se l'avouer, c'est un truc, même moi j'en suis là, ça c'est un grand classique quand on commence à vieillir. Donc les gens qui n'entendent pas très très bien là, on vous jette pas la pierre, mais on sait très bien que vous êtes plus proche de l'EHPAD que du jardin d'enfants, et c'est normal en fait de ne pas assumer et même de pas vouloir s'en rendre compte, parce que quelque part dire qu'on n'entend plus bien, c'est avouer qu'on vieillit. Voilà. Et c'est un des premiers trucs qu'on perd, ça. Enfin, il y a d'autres trucs qu'on perd, vous verrez, mais un des premiers trucs qu'on perd, c'est la qualité d'audition. Et c'est normal que vous mentiez, que vous ne vouliez pas reconnaître ça. Mais ceux qui trouvent que le son n'est pas assez fort sur cette chaîne, c'est la déchéance douce du corps en fait qui va vous emmener doucement vers le chemin de la mort. Voilà. Donc ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. Mais à un moment, il faut l'assumer, il faut le reconnaître, parce que sinon vous allez passer vos repas familiaux, les déjeuners, les dîners, notamment avec toute la famille le week-end, vous serez laissé sur le côté. Hein, c'est-à-dire que tout le monde parlera. Et puis vous n'entendrez rien, et puis de temps en temps on vous interrogera, alors papy, qu'est-ce que tu en penses, et puis vous ferez oui, et puis les gens verront bien que vous êtes complètement à côté de la plaque, et puis les gens penseront qu'en fait vous commencez à être un peu déglingué du ciboulot, alors qu'en fait c'est juste que vous n'entendez rien. Donc si vous trouvez que ce stream n'est pas assez fort, moi je vous le dis comme à des amis, je vous le dis comme à des amis que vous êtes. Ici, on est entre amis. Allez vous faire appareiller, les gars. Allez vous faire appareiller. Mettez-vous des petits trucs. Là, il y a des trucs super discrets maintenant. Voilà. Allez vous faire appareiller. Comme ça, un, vous verrez, votre vie sociale, familiale, ne s'emportera que mieux parce que vous allez entendre les gens autour de vous et vous verrez, ça change tout. Et deux, vous arrêterez de nous. Vous arrêterez de nous faire chier aussi. Ouais. Voilà, un petit appareil, comme ça. Bon, alors il y a Né et Su qui entend très très bien, mais qui n'en peut plus de cette intro, qui dit bon, on y va pour la revue de presse. Ouais, ok, d'accord. Jamais on peut jamais dire quoi que ce soit ici. Ouais, on y va. Bon, on va parler d'avion. Le son est bas. Non, attends, c'est fou le nombre de vieux qu'il y a dans ce chat. C'est incroyable, ça. Mais vous n'avez pas les activités à l'EHPAD à 11h? À 11h le matin, il y a des activités. Non, qu'est-ce que je dis, à 11h? À 11h, c'est le déjeuner déjà. Vous êtes déjà au dessert, là. C'est la compote, c'est l'heure de la compote, là. À 11h. C'est sympa qu'on vous laisse écouter Twitch, du coup. C'est cool. À une époque, c'était France 3 pour tout le monde. Hein. Ouais. Pardon, c'est parti pour la revue de presse. Je dis ça notamment pour Mathieu et consorts de la chaîne YouTube Samuel Etienne, ouais, qui nous met tous les streams sur la chaîne et qui vire les intros, je pense. Hein. Et donc Mathieu, ceci est pour toi, c'est le début de la revue de presse. L'avion peut-il passer au vert? Vous savez quoi? Ça, c'est la question qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Vous avez plein d'articles ce matin sur ce salon aéronautique du Bourget qui s'ouvre aujourd'hui, voilà, qui est le plus gros salon en la matière. Bon, ça fait 4 ans qu'il ne s'est pas tenu et qui est l'occasion de poser cette question. L'avion peut-il passer au vert, hein? Est-ce que l'avion peut devenir vertueux? Peut-il moins, voire plus du tout abîmer l'environnement et participer au réchauffement climatique? Ce serait pas mal, ça. Hein? L'avion peut-il passer au vert? Le secteur aérien s'est engagé, rappelons-le, à atteindre la neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire, neutralité carbone? On va en parler. Tour d'horizon des pistes. Oh, je sais pas si y a un petit jeu de mots là. Tour d'horizon des pistes. Des pistes. Atterrissage, décollage, tout ça. Pour y parvenir à l'occasion du salon du Bourget. Donc on lira ce dossier qui est le dossier le mieux fait ce matin sur ce sujet, c'est dans La Croix. L'avion émission zéro en 2050, est-ce possible? Voilà, on lira ça. Je vous montre Les Échos, pas parce qu'on lira Les Échos, parce qu'on aura déjà quasiment tout lu dans La Croix, mais je voulais vous montrer que c'était aussi à la une des Échos: croissance, pollution, les nouveaux défis de l'aéronautique. Donc l'actu, c'est ça, hein. Après 4 ans d'absence, le Paris Air Show débute ce lundi au Bourget, c'est le nom officiel de ce salon. Confronté à la nécessaire décarbonation de l'aviation, bah oui, il va falloir faire un effort. La filière mise sur les carburants de synthèse. On lira un petit édito ici sur la question transport aérien, passer le mur, non pas du son, mais le mur du climat. Hop, je mets Les Échos de côté, on va y revenir dans un instant. Le Parisien, devinez quelle est l'actualité qui est en une du Parisien, devinez. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont pas trop, qui arrivent à entendre un petit peu, devinez sur quoi c'est. Je bouge pour que vous ne puissiez pas lire. Voilà. C'est. Non, pas les orages. Non, c'est pas Mbappé. Non, c'est pas l'horoscope. Non, c'est pas la météo. Non. Ah! Mais c'est les avions. Putain, il y en a deux qui suivent. Je vous ai dit, il y a plein de une ce matin sur l'aéronautique. Putain, les mecs. Non, sérieux, quoi. Non, vous êtes super fort. Comment Air France veut décarboner l'avion? C'est un coup de projecteur sur la compagnie National. pour voir comment Air France espère bien prendre un peu d'avance là-dessus. Vous avez une interview de Benjamin Smith, qui est le DG du groupe Air France KLM, qui dit on va devenir, on aimerait devenir les champions de l'aviation durable. Et puis, là aussi, c'est un sujet, une actualité qui est évoquée dans pas mal de quotidiens ce matin, mais j'ai choisi l'article du Parisien, mais il y en a un dans Libération aussi, sur ce quatuor d'ultra-droite. Ce sera l'occasion de nous rappeler ce que c'est l'ultra-droite par rapport à l'extrême droite. Aux assises, ah, ça rigole pas, les accusés dont un ex-militaire échangeait sur un forum Discord, créé par l'un d'eux, abreuvé de textes violents, ils avaient participé à une séance de tir en forêt, ils envisageaient des cibles, donc des actions terroristes. Donc ça, je pense qu'il faut en parler un petit peu. Ça, c'est un truc essentiel. Et qui est en une de l'Humanité. Là aussi, vous avez plusieurs articles sur ce sujet. C'est la une de la Provence, par exemple, à Marseille, ce matin. Méliné et Missak, Manouchian en Panthéon, au nom des étrangers et nos frères. Pourtant, de quoi s'agit-il? À l'occasion d'un hommage qui était hier, je crois. Alex, mon micro, c'est un Shure SM7B, je crois. C'est pas de la pub, j'ai pas de partenariat, je l'ai payé plein pot, mais c'est un micro qui est très utilisé par les streamers français. Comme Alex aimait bien ce son, voilà, c'est Shure, comment ça M. Ouais, c'est ça, c'est le SM7B, je crois. Voilà, ça coûte la peau du cul, hein. Merci, hein. Ça aurait pu me l'offrir. Pardon, excuse-moi, je reviens sérieux parce que le sujet est super sérieux. À l'occasion d'un hommage au fusil du Mont Valérien, ça s'est passé hier, je crois. La République reconnaît enfin, dit l'Humanité, officiellement le rôle joué dans la résistance par le communisme arménien, le communiste et sa bien-aimée, et à travers eux, ceux de tous les FTP-MOI. Voilà. Et justement, on se penchera sur ça. Qu'est-ce que c'est les FTP-MOI, hein, tous ces résistants qui pourtant n'étaient pas des Français et qui ont choisi de se battre au nom de la France, d'une certaine idée de la France, pas la France de Vichy bien sûr, pas la France du maréchal Pétain, pas la France de Pierre Laval, pas la France collaborationniste, pas la France des nazis bien sûr, voilà. Et c'est l'Humanité qui, je crois, en parle le mieux ce matin, même si y a beaucoup d'articles sur le sujet. Hop. L'Iran, putain, mais non, je suis crevé, je refais le sommaire. Oh, putain. Il y a Néphérim qui dit, c'est moi ou Samuel nous refait le résumé de l'info une deuxième fois. Oh, putain, la vieillesse. Putain, je vous refais le sommaire. Merde. Oh putain, la solitude. Putain, je suis crevé. Oh putain, oh la vieillesse. Oh, je refais le sommaire. Oh le con. Oh le con. Oh merde. Ah, je peux me moquer de tous ceux qui sont en EHPAD là, qui nous regardent là. Oh merde. Et vous dites rien? Putain, il y a... Sérieux quoi? Il y a Carado qui dit je comprenais plus rien. Mon Dieu, j'en faisais le sommaire. Oh merde. Ok, donc il s'est rien passé. C'était une blague. Voilà, c'était une blague. C'était une petite blague que je vous ai faite qui était assez réussie, je crois. Donc là, on y va. C'est la revue de presse, c'est parti. Puisqu'on a fait le sommaire tout à l'heure, donc c'est pas la peine. On va pas le refaire deux fois. Putain, c'est pas possible. Et donc, on va lire ce dossier de la Croix qui, je crois, est le mieux fait. Donc voilà. Donc Mathieu, juste pour le montage de cette émission pour YouTube, là, on démarre la revue de presse maintenant. C'était une petite blague tout à l'heure. Si je commence à saigner du nez à un moment et que mes propos deviennent incohérents, n'hésitez pas à appeler les secours. Voilà. Envoyez un message à Joe, il sait où est le studio. L'avion peut-il passer au vert? C'est parti! Ouais, on y est! Le secteur aérien s'est engagé à atteindre donc la neutralité carbone en 2050. Tour d'horizon des pistes pour y parvenir. On y va! Alors pour moi, c'est le dossier le plus complet sur le sujet ce matin, c'est dans La Croix. 4 ans après sa dernière édition, c'est peut-être pour ça qu'on en parle aussi beaucoup, le Salon International du Bourget, plus grande manifestation aéronautique civile et militaire du monde, les amis. C'est chez nous. Vous aimez? C'est français. Eh ouais. s'ouvre ce lundi 19 juin. Hein, les gens qui disent, ouais, la France, petite, petite puissance, voilà, petites ambitions, gros déficit par contre. Ouais, le coq, les pieds dans le fumier qui chante, pète plus haut que son cul, tout ça. La France, mesdames et messieurs. Hein, je le répète donc. Le Salon International du Bourget, plus grande manifestation aéronautique civile et militaire du monde, c'est chez nous, nom de Dieu, s'ouvre ce lundi 19 juin. Ce rendez-vous offre une vitrine aux efforts fournis par les acteurs du secteur pour décarboner l'aviation. Mais les gains apportés par les améliorations et ruptures technologiques risquent fort de ne pas suffire dans un contexte de forte croissance du trafic. L'aviation... zéro émission en 2050, l'avion zéro émission en 2050. Est-ce que c'est possible? Je sais que certains sont extrêmement sceptiques par rapport à ça et vous avez peut-être un petit peu raison. Mais c'est pas une raison pour laquelle je ne pas tenter quand même de réduire ces trucs, quoi. Je lis ce dossier qui est vachement intéressant. Il y a du jaune partout, c'est que c'est très très bien fait. Industriels et pouvoirs publics misent avant tout sur la technologie hein, pour décarboner le secteur aérien. Mais compte tenu de la croissance du trafic, il sera difficile d'y arriver sans limiter les vols. Sans limiter les vols, vous allez voir que c'est ce que disent plusieurs ONG qui ne nient pas les efforts du secteur. Les avions consomment et polluent beaucoup moins qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Pour le coup, ce serait un peu hypocrite de nier les progrès de ce secteur. Mais les ONG spécialisées là-dedans disent, certes, les progrès a priori vont continuer, mais ça ne suffira pas. Et à un moment, il faudra aussi limiter les vols. En tout cas, c'est l'avis de certaines ONG de défense de l'environnement. On va lire ça, c'est vachement intéressant. Objectif 2050, donc, zéro émission nette. Ce cap fixé est un défi gigantesque pour l'aviation responsable de 3% des rejets de gaz carbonique dans le monde. Réunis cette semaine au Bourget, les acteurs du secteur en ont conscience. Comme le résume un des organisateurs, l'avion doit ni plus ni moins réussir sa quatrième révolution. Quatrième, c'est-à-dire... Première révolution, il a fallu prouver qu'un avion pouvait voler. C'est mieux. Deuxième, qu'il pouvait le faire en toute sécurité. C'est encore mieux. Troisième, que ce moyen de transport pouvait bénéficier au plus grand nombre. Bon, tout le monde peut prendre l'avion, mais ça s'est quand même pas mal démocratisé. Quelqu'un me dit, il a dit 3% des émissions. Ouais, j'ai dit 3% des émissions, c'est ce qui est écrit dans la croix. Donc 3% des émissions, et pour être tout à fait précis, 5% des émissions de particules concourant au réchauffement climatique. Quatrième révolution... Donc, eh bien, c'est de décarboner l'aviation. C'est intéressant. Cette ambition sera donc au cœur du salon avec une exposition présentant les pistes qui s'offrent pour faire décoller un avion vert, entre guillemets. Les industriels ne ferment aucune porte, pas plus que les pouvoirs publics. En visite dans une usine du groupe Safran à Villaroche, en Seine-et-Marne, vendredi dernier, Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé que pour 2024-2030, l'injection massive d'argent public et privé pour concevoir de nouveaux aéronefs 300 millions d'euros par an, encourager l'essor des avions à hydrogène, on va en parler, et électrique, 200 millions d'euros par an, et développer les biocarburants, 200 millions d'euros par an. Donc c'est marrant parce que à travers ce plan de soutien là, on a trois pistes d'ailleurs pour décarboner les avions, qu'on va évoquer tout à l'heure plus dans le détail. On a concevoir de nouveaux aéronefs hein, qui consomment moins, qui polluent moins, encourager et développer les avions de demain à propulsion hydrogène par exemple, voire électrique pour les petits appareils a priori, ou encore développer les biocarburants, on va en parler. Ces carburants issus de la biomasse, donc là on parle des biocarburants, qu'est-ce que c'est ? Sont déjà utilisés par les compagnies d'ailleurs à petite échelle, comme les carburants de synthèse encore balbutiants. Ils constituent les fameux carburants durables qui sont au cœur d'une directive européenne en cours d'adoption et qui portent progressivement leur proportion de 2% en 2025 à 70% en 2050. Les carburants durables, donc qu'ils soient donc biocarburants ou synthétiques, font partie de la solution, notamment pour les longs courriers, estime Jérôme Duboucher, qui est responsable d'aviation pour la France au sein d'une ONG qui s'appelle Transport et Environnement. Et donc ce monsieur dit, c'est une des pistes, c'est une des solutions, hein, les biocarburants, mais ils permettent seulement de réduire de 60 à 90% les émissions de CO2 par rapport au kérosène, et au rythme où croît la demande de ces biocarburants, il sera impossible de suivre la demande. Donc déjà, ce n'est pas une solution qui est 100% satisfaisante, et en plus, en termes de production, a priori, ça ne pourra pas suivre. C'est un des soucis. En plus du prix, parce que ça coûte une blinde. La fréquentation des aéroports actuellement, aujourd'hui, c'est intéressant ça, est désormais proche de celle de l'avant-Covid. Vous vous rappelez quand on disait merci Nilus 369 pour le message et pour le sub. Quand on disait, vous vous rappelez pendant la crise, ah, ce serait bien qu'après la crise sanitaire du Covid, on invente une nouvelle société, qu'on change nos comportements. Bon, en matière de transport aérien, en gros, on est revenu quasiment à la situation d'avant le Covid. Airbus comme Boeing anticipent un doublement de la flotte d'ici à 2042. Donc ça repart comme en 40. Pour l'ONG dont je parlais, les solutions technologiques ne sont pas suffisantes, doivent aller de pair avec une réduction du nombre de vols. C'est les deux. Là où le médiatique polytechnicien Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez, préconise de limiter à 4 le nombre de voyages en avion sur toute une vie, hein, 4 voyages en avion sur toute une vie max, proposition de Jancovici, l'ONG, elle, table sur un maintien du trafic loisir à son niveau de 2019 et une réduction, en revanche, de moitié des voyages d'affaires. Voilà. Donc vous avez dit, bon, je résume la position de cette ONG, on va continuer à bosser sur les avions, sur les carburants, on va réduire technologiquement la pollution, les émissions de CO2, mais il faudra aussi réduire le trafic. Et là, donc, où on limite les déplacements privés, 4 vols par vie, hein, ou alors, comme le propose l'ONG, là, on divise par 2 le trafic à faire, quoi, professionnel. Pour ce faire, l'ONG mise sur un renchérissement des billets plus chers, en appliquant le principe du pollueur-payeur à l'aviation qui bénéficie aujourd'hui d'exemptions ou de réductions de taxes, notamment sur le kérosène. Elle propose, l'ONG, de relever significativement le montant de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Je crois que c'est Jacques Chirac qui a mis en place cette taxe de solidarité sur les billets d'avion, si je ne dis pas de bêtises. Considérant, c'est pas tout, qu'il faudrait l'équivalent de 15 centrales nucléaires de type EPR pour fournir l'électricité nécessaire à la production de carburant durable, si on suit la feuille de route choisie par l'État, le laboratoire dit des Terra Nova plaide aussi pour une réduction du trafic, vous voyez, moins 2% par an jusqu'en 2050, ça n'est pas rien. Il y a un haut fonctionnaire qui s'appelle François Kirsteter, qui lui propose d'interdire les subventions aux aéroports et aux compagnies aériennes, de redéployer l'effort de la collectivité vers le rail et les alternatives soutenables. Il suggère aussi de limiter drastiquement le nombre d'aéroports. Donc vous avez plein de pistes de propositions, je vais vous lire dans un instant bien sûr. Dans le chat, vous allez me dire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'acteurs en conviennent, la bonne volonté des individus ne suffira pas. Une régulation s'impose. La France a ouvert la voie avec l'interdiction depuis mai des vols intérieurs lorsqu'il existe une alternative en train à moins de 2h30. Je me penche sur la deuxième page de ce dossier dans un instant. Des pistes pour décarboner l'aviation, donc au-delà de la réduction de trafic. Mais d'abord, je vous lis. Oh, oh Pépin, mon ami. Oh, c'est trop gentil. J'aime bien avoir tes nouvelles. Raid de Pépin. Allez voir la chaîne de Pépipin. Voilà. Un des streams les plus chill de la planète. Ah, on n'est pas sur Kick, hein. Ah, on n'est pas sur Kick. Ah, et là, les viewers de Pépin qui viennent d'arriver nous disent, ah ben justement, elle part sur Kick. Pépin, tu pars pas sur Kick. Pépin. Pépin qui était avec moi à Rennes, avec Foki, avec Joe, le samedi soir pour le stream en direct du couvent des Girondins, et on s'est régalé. Pépin dit même pour 100 millions, je ne vais pas sur Kick. Voilà. Ouais. Même pour 100 millions. Vous notez que Pépin n'a pas dit pour 1000 millions. Hein ? Mais putain, 1000 millions, c'est un milliard ? Merde. 1000 millions, c'est un milliard ? Merde, ouais. La vieillesse, quel naufrage. Jacobin, pardon. Quel naufrage. Donc pour un milliard, elle irait peut-être. Bon, il y a Saul Roy qui me dit, moi pour 10 balles, j'y vais, c'est la crise. Ouais. Ah, t'y vas, tu reviens, c'est tout. C'est pas con ça. Sian 44, tu prends les 100 millions ou les 1000 millions qui donnent un milliard, donc tout le monde le sait. Et tu reviens après. Hein, c'est pas mal ça. Et après, du coup, tu stream à l'œil sur Twitch. C'est pas mal, ça. En tout cas, merci Pépin pour le raid, merci Yasmadeka pour le 15e mois d'abonnement, merci Nilus369 pour le 14e mois, et allez voir la chaîne de Pépin. Voilà. En plus, elle fait ça très très bien sur son compte Twitter. J'ai vu là ces dernières heures tout le programme, tout propre, voilà ce que je vais faire et tout quoi. Bravo. Donc, qu'est-ce que vous en pensez là ? On était en train de parler de ces pistes. Merci Madame Mouina pour le 9e mois d'abonnement. Ces pistes qui s'offrent à nous pour réduire la pollution et la participation au réchauffement climatique du secteur aérien, aéronautique. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, on va se pencher sur les pistes, notamment au niveau des avions. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous semble possible ? Souhaitable ? Caradoc, commençons par la source du problème, un tourisme raisonné, régulé. Voilà. C'est marrant, il y a une ONG qui dit bah non, il faudrait plutôt taper sur l'aviation d'affaires. Sunblasted nous dit non, il faut planter massivement des arbres pour fixer le carbone. Excédent, tout le reste n'est qu'une compresse sur une fracture. C'est trop tard dans tous les cas, dit Alex Schrez. À ceci, je réponds Alex, ce que nous disait notamment Salomé Sake et d'autres qui sont venus dans l'hebdo Etienne cette année. Chaque degré, chaque 0,1 degré de réchauffement supplémentaire auquel on échappe grâce à toutes nos actions, en fait, compte. En fait, là aussi, c'est pas noir ou blanc, c'est pas on ou off. Voilà, tout ce qu'on pourra éviter en termes de réchauffement pour la planète sera une bénédiction pour tout ce qui est vivant sur cette terre, quoi. Donc, il est trop tard, sans doute, pour empêcher le réchauffement climatique, et pour cause, il est là, il a commencé, on le voit tous les jours. En revanche, il n'est pas trop tard pour le limiter. Il est limité. Voilà. Oh les cœurs. Ils partent de très loin, Samoussa, sur le secteur aérien. J'ai hâte de voir la nouvelle forme d'avion en aile Delta, dit Grand Lolo, c'est vrai qu'on en parle. Peut-on rappeler la part du transport aérien dans les émissions de CO2 ? Oui, 3%. Sur les émissions, hop, c'est dans la croix ici, 3% des rejets de gaz carbonique et 5% pour les émissions de particules concourant au réchauffement, tout à fait. Mais, et ce n'est pas un argument non plus, on dit « Ah ouais, ce n'est que 3%, ce n'est que 5% ». Mais tout n'est qu'une petite partie. Pourquoi on devrait interdire les centres-villes aux véhicules les plus polluants ? Ça n'est que, donc on ne fait pas. Pourquoi on devrait manger moins de viande parce qu'on sait que la production de viande participe de façon importante au réchauffement climatique. Ça n'est que ça. Alors, les ça n'est que ça, évidemment, si vous prenez toutes les sources d'émissions de CO2, source par source, à chaque fois, vous allez dire, ben non, tu vois bien que ça ne suffit pas, il faudrait aussi faire ça. Ben oui, c'est ça le truc. On vient de répondre à la question. Il faut tout faire, en fait. Il faut agir sur tout. Voilà. Comme le dit Legacy en Guillaume, qui a de meilleures connaissances en maths que moi, à coup de 1 ou 2%, on arrive à des grands pourcentages. Là, par exemple, sur le déficit de la France vient de s'engager par rapport à vis-à-vis de l'Union européenne à baisser de 2% son déficit budgétaire. 2%, tu vas me dire, 2%, c'est énorme, 2%, c'est énorme. Donc, voilà. La râlerie, Étienne, ouais, je râle pas mal en ce moment, voilà. Voilà, moi qui fais tout pour être pilote de ligne, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, dit Pierpad. On va améliorer tout ça. On va finir comme dans Mad Max, de toute façon, dit Arakion, que je suis en train d'imaginer dans son garage, en train de préparer son véhicule pour la guerre de l'essence. Mad Max, bien sûr. Oh les cœurs, belle musique de Fauve. Oh là là, certains se souviennent de Fauve ici, French Yu-Gi-Oh. Qu'est-ce que j'ai aimé ce groupe. Oh les cœurs, ah c'était bien ça. C'était bien fou, j'aimais bien. Oh, qu'est-ce que j'ai pu écouter en boucle ce truc. On va tous mourir, des Storm Chaser qui est notre ami optimiste du chat, mais bien sûr que non, bien sûr que non. On va y arriver. Voilà, taxer l'avion, détaxer le train, GTF proposition. Ah, c'est intéressant. Argos appelle ça, enfin ça s'appelle, nous rappelle Argos, le biais cognitif de responsabilité partagée. S'il y a d'autres acteurs concernés par le même problème, là on est en plein dedans, Il y a de fortes chances qu'on se dise à un moment, et c'est ce qui arrive beaucoup sur ce sujet, pourquoi moi je me bougerais si un tel ne se bouge pas, hein, c'est pourquoi je me bouge, lui il bouge pas, pourquoi j'arrêterais de prendre l'avion, lui il continue, pourquoi j'arrêterais de manger de la viande, lui il continue, pourquoi nous on ferait ça alors que les Chinois, les Américains, voilà, c'est le, hein, sans arrêt. Moi je mange, moi j'aime trop la viande, me dit Samou. Et nutrivement, c'est irremplaçable. On te demande pas d'arrêter la viande. On te demande de la réduire déjà. Voilà. Moi, j'ai réduit la viande. J'ai réduit la viande. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'en mange encore de temps en temps. Hein. Mais non, c'est pas trop tard. Chaque degré, chaque 0,1 degré de sauver, d'empêcher, d'annuler va rendre la Terre un tout petit peu plus habitable. Voilà. Voilà. Pour ceux qui sont dessus, quoi. Bien sûr que c'est pas trop tard, on peut toujours agir, quoi. Bien sûr. Il y a Poum qui est en pleine forme. Si l'aviation ne trouve pas rapidement une piste, l'atterrissage va être rude. Non, non. Poum, poum, poum. Excellent, excellent. Maintenant, on y va. Comment on fait ? Donc, on a compris que pour réduire les émissions de CO2 du secteur, il faudra moins prendre l'avion. Est-ce qu'on le fait sur la base du volontariat ? Est-ce qu'on l'impose ? Est-ce qu'on dit dans une vie c'est 4 fois l'avion maximum ? Est-ce qu'on dit le business, les affaires, tout ça, vous allez nous limiter tout ça, vous allez faire des conférences à distance, hein, comme tout le monde. Voilà, il y a plein de pistes possibles. Et puis autre piste bien sûr, eh bien on fait des avions et des carburants qui sont moins polluants. C'est parti, des pistes pour décarboner l'aviation, c'est vachement intéressant. Là, on rentre un peu dans le techno. Différentes solutions s'offrent pour minimiser l'impact en carbone de l'avion. Certaines sont applicables immédiatement, d'autres sont en phase de développement. Un avion moins gourmand, comment émettre moins de CO2 dans l'aviation commerciale ? En commençant par consommer moins de carburant. Eh, bien sûr ! Les avionneurs et motoristes cherchent à concevoir un avion ultra frugal. Cette quête a débuté dès le choc pétrolier de 73, rappelle une source industrielle, mais depuis que la prise de conscience de l'urgence climatique a rejoint les impératifs économiques, eh bien, tout le secteur s'accélère. Merci beaucoup Lost in a Maze, et je suis content d'avoir de tes nouvelles. Merci pour ce 19e mois d'abonnement. Donc c'est un secteur qui a déjà beaucoup fait, mais qui manifestement cherche à faire de plus en plus. Chaque génération d'avions, offre une réduction d'émissions de 15% environ, explique Baptiste Voilquin, qui est membre du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, et qui nous dit que les programmes que les avionneurs devraient lancer en 2027 ou 2028 pourraient même permettre de sauter une génération avec un gain de 30%. Ça n'est pas rien, ça n'est pas parfait, mais ça n'est pas rien. Les industriels travaillent sur des moteurs moins gourmands, comme sur la forme des avions. Quelqu'un nous parlait d'Delta tout à l'heure. Ils cherchent aussi à alléger les aéronefs en utilisant par exemple de la fibre. Ils misent enfin sur de nouveaux matériaux, notamment davantage de composants plus légers, plus résistants, plus facilement recyclables. Donc, on bosse sur l'avion. Voilà. Après, on bosse sur les carburants. Une part croissante de carburants durables. Une des pistes les plus prometteuses de décarbonation passe par l'usage de carburants durables, guillemets. L'appellation recouvre d'un côté les biocarburants, dérivés d'huile de cuisson usagée et de déchets agricoles ou forestiers, et de l'autre, les carburants de synthèse, ceux qu'on fabrique de toutes pièces. Ces derniers sont produits à partir de CO2 capté dans l'atmosphère ou dans les rejets industriels et mélangés à de l'hydrogène qui est obtenu en recourant à l'électricité renouvelable ou nucléaire. Évidemment, si vous produisez ce genre de carburant, de biocarburant avec une énergie qui est sale, charbon ou pétrole, ça n'a évidemment aucun intérêt. Ces carburants durables ont l'avantage de pouvoir être mélangés au kérosène sans changement de moteur. Dans l'aviation d'affaires où les avions passent moins d'heures en vol et où la clientèle est moins regardante sur le prix, on peut se permettre d'endosser aujourd'hui un rôle de pionnier. Certains Falcon de Dassault volent ainsi avec 30% aujourd'hui de biocarburant. Volontariste, elle aussi, la compagnie Air France utilise déjà 3% de biocarburant, Air France, ce qui équivaut à un quart de la production mondiale. Air France fonctionne aujourd'hui avec ses avions à 3% de biocarburant et ça représente un quart de la production mondiale. Donc là, on comprend bien que la production mondiale de biocarburant ne va pas suffire aux besoins éventuels des compagnies. Et Air France souhaite même monter à 10% d'ici à 2030. Des vols d'essai ont d'ailleurs eu lieu avec 100% de biocarburant, Mais là, il faudra des années pour avoir une certification pour les vols commerciaux. Et puis, écrit Lacroix, même si la solution est mûre d'un point de vue technologique, elle se heurte au caractère embryonnaire de son marché avec des marchés avec des prix trois fois plus élevés que ceux du kérosène parce que ça coûte très cher. Alors que la biomasse utilisée pour produire des biocarburants est convoitée aussi par d'autres usages, d'ailleurs transport routier, chauffage industriel, eh bien les carburants de synthèse devraient également se faire une place, même s'ils sont pour l'instant à un stade précoce et coûtent aujourd'hui jusqu'à 10 fois plus cher que le carburant ordinaire. Biocarburant, souligne Milian dans le chat, et a raison, ben c'est moins de surface agricole pour nourrir l'humanité, c'est vrai. Du coup, il y a les carburants de synthèse, on en parle ici, mais ça coûte deux bras. Sinon, il y a l'hydrogène électrique. Parce qu'en fait, bon, si je vous résume un petit peu ce que j'ai lu là-dessus ce matin, et puis j'en parlais avec un spécialiste d'aéronautique ce matin sur France Info à 7h, l'idée, c'est bon, peut-être de réduire le trafic, d'utiliser au maximum les biocarburants, mais vous avez vu que c'est ou ils ne sont pas produits en assez grosse quantité, ou c'est beaucoup trop cher. Voilà. Et de toute façon, les biocarburants, ce serait une solution d'attente pour le futur, et le futur, ce serait l'hydrogène ou l'électrique, électrique plutôt pour les petits avions. Les ingénieurs imaginent aussi de faire un jour voler des avions à l'hydrogène. Ce gaz peut alimenter une pile qu'il transforme en électricité ou servir directement de combustible avec un meilleur rendement énergétique escompté. Airbus, qui s'appuie sur le savoir-faire d'Ariane Group, entend ainsi présenter un avion à hydrogène dès 2035. Voilà. Mais il ne faut pas s'attendre à une mise en œuvre rapide et massive de cette solution. L'hydrogène implique une rupture technologique au niveau du moteur et surtout de l'architecture de l'avion. Il faut en effet prévoir des réservoirs 4 fois plus volumineux pour stocker l'hydrogène à très basse température. Donc il faudrait des avions avec des gros réservoirs et sans doute avec des formes d'ailes extrêmement différentes. En revanche, il pourra aider à répondre aux besoins de refroidissement de l'aéronef. Autre révolution technologique, je finis l'article et je vous lis. Je vais me faire un petit café. Autre révolution technologique, celle de l'avion électrique. Elle laisse sceptique beaucoup d'acteurs car elle suppose d'embarquer des batteries lourdes et encombrantes, mais elle n'est pas sans intérêt pour des avions de petite taille. C'est en tout cas le pari que fait à Toulouse la start-up Aura Aero qui veut faire voler dès 2026 pardon, un avion électrique de 19 places doté d'une autonomie d'un millier de kilomètres. Ah ouais, quand même. Ok. 19 places. Tiens, je vais m'acheter ça. Ça doit pas être cher en plus. Ah, petit café dans un instant. Et je vous lis. Alors je lis avec intérêt d'ailleurs le premier message de Fitness Warriors qui n'a jamais écrit ici. Voilà. Qui a créé son compte le 5 janvier 2014. Qui est follower depuis le 5 avril 2023 et qui écrit son premier message aujourd'hui que je voudrais féliciter et accueillir avec chaleur, avec humanité, avec beaucoup d'amour, qui écrit donc pour son premier commentaire ici, ta gueule, on s'en bat, voilà. Donc je crois que l'avis sera unanime pour à la fois donner beaucoup d'amour, de chaleur à notre ami Fitness Warriors, qui est par ailleurs un pseudo intéressant. Et là, vous dites, c'est un gros ban def. Eh ben non. C'est un ban provisoire parce que je crois à l'humanité. Je crois à la main tendue. Fitness Warriors, voilà. Donc, n'hésite pas à aller faire un peu de fitness justement pour t'aérer, voilà, pour respirer, pour faire le plein, non pas de CO2, mais d'oxygène. Et puis peut-être te dire que tu peux participer à ce débat de façon un peu plus, voilà, on parle de l'aviation un peu plus aérienne peut-être, un peu plus élevée. N'hésite pas. Voilà, mais bon, je pense que tu peux faire mieux que ça. Je pense que tu peux faire mieux que ça. En tout cas, j'espère que tu passes pas ton grand oral du bac là, dans les heures qui viennent, parce que si ton niveau d'argumentation, ça va être compliqué quand même. Quoi. Mais on donne la chance au produit. On y croit, Fitness Warriors. Tu es avec nous. Voilà. J'espère que tu es avec toi-même aussi. Et je te dis à tout à l'heure pour des commentaires qui seront très pertinents. Zimco, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Ah, j'ai mis Bandef sans faire exprès. Ah non, mais t'es pas Bandef, hein. C'est ban provisoire, hein. Attention, hein, c'est important, hein. Le dialogue. Ah bah non, je voulais pas faire Bandef. Non, pas le passé VIP non plus, mais... Ah zut, je voulais pas... Attends, je vais essayer de le retrouver. Oh, j'ai trop de journaux. Bon, en même temps, avec un pseudo comme ça, tu... C'est quoi, c'est un ban quoi? Non, c'est un ban... Non, non, c'est un ban temporaire. C'est un ban temporaire. Non, non, c'est bon. L'avantage du pseudo, c'est que tu le retrouves vite, hein. Voilà. Ah ben non, Captain Mabernick. Ah non, je l'avais vraiment... Ah non, c'est moi. Je l'avais ban def, moi. Et heureusement, Captain Mabernick est passé derrière pour le passer en ban provisoire. Et Fitness Warriors, justement, vous voyez? Voilà. Pourtant, j'étais un peu moqueur, un peu couillon. Eh bien, a répondu quoi à toutes mes bêtises? Je t'aime bien, je vous aime aussi. Voilà, tu vois, le dialogue, il est entamé. Voilà, vous voyez? C'est QFD. Et pourtant, j'étais un peu con, hein. Un peu... Voilà. Vous voyez? Voilà, merci Captain Mabernick. Ah, bien fait. Je pense que là, c'était un petit peu d'humour. Un petit peu d'humour. Pas mal de dossiers dans la croix, hein. Vous en pensez quoi? Merci Cops Furax pour le Prime. Merci Zim Kong pour le deuxième mois d'abonnement. Oh! Bon oral de bac français, Krayos. Ça va bien se passer. Oui, ça je l'ai lu aussi. Conny 88, les pertes énergétiques liées à l'hydrogène sont énormes. Plus de 70% de pertes, c'est la pire de toutes les idées. Alors ça, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a ces pertes, c'est vrai. C'est quoi le pire, un ban def ou te faire sermonner par Sam comme si t'avais 5 ans, dit Clowedge. Parfois je suis un peu con aussi dans mes sermons là, parfois je suis un petit peu, franchement. Mais bon, c'est pour faire, c'est bien de rire aussi un peu. Merci, Louloup, c'est gentil. C'est très gentil. Je te dis à bientôt. Allez, je vous lis et j'enchaîne avec un deuxième article sur le même sujet. Café, petit café, allez. Je range la croix. Après, on lit ce que les échos en pensent là-dessus. Voilà, édito intéressant. Le Parisien sur Air France qui veut y aller assez franchement là-dessus. Voilà, 4 gars de l'ultra-droite là, qui passent devant les cours d'assises. On va voir ce qu'il leur est reproché. La une de l'Humanité sur les Manouchians qui vont entrer au Panthéon, ça c'est vraiment important. Libération sur la situation en Iran, là c'est un petit peu tendu. Le Figaro sur les rumeurs de remaniement ministériel, remaniement, pas remaniement. On le saura dans un instant. Non, ça n'est pas le troisième sommaire. Non, ça n'est pas le quatrième sommaire. Arrêtez de vous moquer. Voilà, je vieillis, voilà, parfois je perds un peu la boule, mais vous êtes là, vous êtes un peu mes enfants, voilà, et vous, mes auxiliaires de vie aussi. Et vous allez bien vous occuper de moi. Voilà, et vous ne vous manquerez pas quand il y aura un petit filet de bave et voilà, des petits moments d'absence. J'ai fait deux sommaires aujourd'hui, peut-être. Allez, pour le plaisir, on fait un petit sommaire, parce que je crois qu'on n'en a pas fait encore. C'est parti donc pour le sommaire. Alors, 1h38 de stream, petit café. Allez, on va s'hydrater. Vous aussi, vous vous hydratez. Avec quoi? De l'eau. De l'eau. De l'eau gazeuse, de l'eau pétillante. Un petit café, un petit déca. Un petit Nesquik, un petit Ricless, une petite orange pressée, un petit ce que vous voulez, vous êtes grand, un petit Ricard, un petit whisky sec sans glaçon, après voilà. Hein, on fait ça? Je vous mets un peu de musique? Allez, petit peu de musique, petite pub pour ceux qui sont pas abonnés, on se retrouve dans un instant avec un petit café et un petit sommaire. Bien sûr. À tout de suite. C'est quoi la musique là? C'est bien ou pas?
I don't believe in all the things you say. These promises you're breaking. Cause all of us just landed here. The shitstorm just remained. It was pushed on us like past mistakes and our father's name. And all we really wanted was a little for ourselves, to pick us up and dust us off, save us from these private hells. It's been many now since the home fire ceased to burn, the lights went out long ago, darkness still returns. Do you not know what I'm saying? Doesn't make it alright. Forever running round in circles like moths around the light.
Joli ça. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, non pas dans le dernier stream avant la fin du monde, sinon on serait mis dans un pub, évidemment. Mais dans le dernier stream a priori de cette saison, pour X raisons, je ne reviens pas sur Twitch avant la fin juillet, ce qui ne veut pas dire que je vais sur Kick, pas du tout, je fais d'autres trucs. Mais voilà, donc c'est mon dernier stream de cette saison, on est quand même dans la troisième année de stream de Papy Sam. Alors, on parle beaucoup d'aviation à l'occasion du Salon du Bourget ce matin, c'est ce qu'on a lu à l'instant dans La Croix. On en parle aussi avec cet édito dans Les Échos. Merci Copsfurax pour le Prime, merci Zimco, merci pour le deuxième mois, merci beaucoup. Jinjapter, on t'a pas proposé 100 millions pour Kixi, on les a proposés. Mais je t'ai fait un virement en fait, j'en voulais pas, je ne voulais pas de cet argent. Donc voilà, je te l'ai envoyé, normalement tu l'as sur ton compte, c'est pas une surprise. Du 19 juin, ne me remercie pas. Non, pas de sommaire, j'ai pas envie de faire de sommaire aujourd'hui. Je suis Ryu, voilà. Ou plutôt j'en ai déjà fait 3 je crois. Oh là là, Anaboy qui a eu accès à mon compte d'impôt sur le impôt Gouv. Ah mais il les a déjà malheureusement, il les a déjà. Sur le service public, c'est une dinguerie au niveau des sous. Hein. service public, c'est vrai que les 100 millions, je les ai depuis longtemps, effectivement. Alors, croissance, pollution, les nouveaux défis de l'aéronautique, c'est la une des Échos. Après 4 ans d'absence, le Paris Air Show débute donc ce lundi au Bourget, confronté à la nécessaire, décarbonation de l'aviation. La filière mise sur les carburants de synthèse. Quelqu'un me demande dans le chat si j'ai déjà réservé mon pseudo sur Kick. Bien sûr, il se trouve que mon pseudo un peu officieux sur Twitch est parfait pour Kick. Ceux qui ont la ref, ont la ref. Édito, transport aérien, passer le mur du climat. La réalité est là, 4,5 milliards de passagers devrait se rendre à l'aéroport cette année dans le monde. 4,5 milliards de passagers, soit autant qu'avant le Covid. Bon, la société d'après, le nouveau truc, le machin, on n'a rien changé. L'essor des réunions à distance et la fameuse honte de l'avion n'ont visiblement eu qu'un effet marginal. Les paquets de cigarettes illustrés de photos explicites sur les dégâts provoqués par le tabac n'empêchent pas de fumer. Et même si on sait désormais qu'un Paris-New York aller-retour contribue à émettre une tonne de CO2 par passager, soit un peu plus du quart des émissions annuelles d'un Français, pour ceux qui se demandent « Ah oui, mais si je voyage moins, si je prends moins l'avion, ou si j'arrête de prendre l'avion, ça, est-ce que ça a vraiment une incidence ?» Un aller-retour Paris-New York par an, c'est un quart, un peu plus d'un quart des émissions annuelles d'un Français. Donc oui, ça joue. Donc malgré tout ce que je viens de dire, la croissance de la demande reste soutenue, c'est comme ça. Elle dépasse toujours en proportion les améliorations induites par le progrès technique qu'on a évoqué tout à l'heure, l'efficacité des moteurs, l'allègement des structures aussi. Et dans les années à venir, la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite vont continuer à investir massivement dans l'aérien. Alors, parce que là on se dit waouh, c'est un peu inquiétant quand même. Alors, que faire pour limiter l'impact environnemental de ce mode de transport qui est hélas populaire? Une taxation internationale sur le kérosène, une hausse du prix des billets ou une surtaxe sur l'aviation d'affaires ne suffiront pas à changer la donne pour les Échos. L'exemple à suivre est sans doute celui du secteur automobile européen, dont le modèle évolue aujourd'hui à marche forcée. L'interdiction par l'Europe du moteur thermique d'ici à 2035 montre que l'action des États est de nature à faire bouger les lignes. Les voitures rendues moins polluantes par les investissements industriels colossaux vont continuer à rouler. Alors bien sûr, dans l'aéronautique, le gap technologique est encore plus difficile à combler. L'avion à hydrogène, on l'a vu tout à l'heure dans la croix, ne sera pas prêt avant 30 ans au moins. En attendant, une fois accompagné le développement des carburants alternatifs qui peuvent s'utiliser directement sans transformer la flotte. Une production aujourd'hui infinitésimale, et puis on l'a vu, ça coûte un bras. C'est le sens de l'effort financier annoncé vendredi par le président Macron pour permettre à la France de disposer d'une unité de production à LAC. Une initiative bienvenue mais pas suffisante. Il faudra aussi sécuriser l'accès à la biomasse et l'électricité décarbonée, indispensable à la production du kérosène vert. Alors que les États-Unis, eux, accordent déjà des subventions massives à chaque gallon produit. La transition énergétique, on le sait, est une compétition féroce à laquelle l'aviation verte n'échappera pas. Et si l'Europe ne veut pas se laisser distancer dans cette course vers l'industrie du futur, c'est maintenant qu'elle doit se mobiliser. Vos réactions à cet édito des Échos. Ah, c'est marrant. Gouaou dit, et si on faisait une loi Evin, tu sais, qui interdit la publicité sur le tabac et l'alcool, sur les publicités pour le tourisme, est-ce que ça pourrait être plus efficace? Je crois que, hélas, on n'a pas besoin de pub sur le tourisme pour nous donner des envies d'évasion. Je pense que c'est assez naturel de aller voir ailleurs ce qui se passe et d'être curieux, pas seulement de se reposer de jolies plages d'eau cristalline et de se détendre un peu, mais aussi curieux de l'autre, tout simplement, d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres cultures. Je crois qu'on n'a pas besoin de pub pour avoir envie de ça, en fait. Donc après, maintenant, il faut trouver les conditions pour continuer à satisfaire cette curiosité, cette envie d'ailleurs en fait, mais sans abîmer la planète quoi. Pourquoi on limiterait pas le nombre de vols par habitant, dit Pierrot? C'est de la proposition de certains. Ils vont faire des avions électriques comme la voiture Bébé Cali. Alors non, pour l'instant non, mais un jour peut-être, parce qu'on là on parle d'un prototype chez qui, on l'a vu tout à l'heure, d'un avion de 19 places avec une autonomie de 1000 km par exemple. Alors vous êtes plusieurs à souligner ce que John appelle un contre son camp gigantesque avec un pays, le nôtre, qui est devenu un pays qui survit uniquement grâce au tourisme. Alors, un pays qui survit uniquement grâce au tourisme, non, c'est un petit peu exagéré, mais effectivement, une des premières destinations touristiques au monde. Bonne réunion surprise, French Guillaume. C'est intéressant ce que vous dites, mes amis. J'aime bien. Ici, on a le droit de faire des pas de côté et dire des bêtises pour rigoler, même sur les sujets les plus sérieux. J'aime bien la blague de Miliana. Si on limite le nombre de vols par vie, on va avoir des allées simples. Excellent. Excellent. Et puis il y a tous ceux qui ne prennent pas l'avion. Hein. Bonne journée, Sakip. Voilà, Clamakin nous donne les chiffres. Le tourisme, c'est 3% du PIB en France, quelqu'un nous disait tout à l'heure. Un pays qui tire essentiellement sa richesse du tourisme. Bon, 3% c'est beaucoup, mais. Ça, nous dit, est-ce que tu as fait tous les continents, Étienne? Perso, appelle-moi Mister C. Jeune, j'ai beaucoup voyagé, moi. J'étais un vieux gars, un célibataire très longtemps. Et du coup, pour mes vacances, je partais loin. J'ai beaucoup découvert l'Amérique du Sud. C'était génial, d'ailleurs. Beaucoup de pays en Amérique du Sud, beaucoup de pays en Asie. Voilà, l'Océanie, l'Australie aussi. Et donc, ça, c'était quand j'étais jeune et un peu inconscient aussi de tout ça. C'était super ces voyages, mais aujourd'hui je serais incapable de faire ça, quoi. Parce que en fait c'est pas possible. Donc je prends beaucoup moins l'avion qu'avant, voilà. Et puis je vais plus à l'autre bout de la terre pour me détendre, même si je suis toujours aussi curieux de ces cultures, de ces civilisations, de ces rencontres. Mais voilà, à un moment, en l'état actuel de ce que le transport aérien provoque en termes de pollution et de réchauffement climatique, dans l'état actuel, moi je veux plus voyager à ces conditions-là, quoi. C'est pas possible. Nat dit, moi je suis ultra favorable à limiter le nombre de vols par personne par an, mais ça se fera jamais, atteinte aux libertés individuelles, tout ça, tout ça. Non. Bah non, une société, c'est parfois... Attention, la liberté individuelle n'est pas la liberté de tout faire, et de tout faire au détriment des autres. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et la liberté de vivre sur une planète vivable, ou de respirer un air respirable, c'est une liberté, non ? Donc non, bien sûr qu'on peut atteindre à cette liberté-là. La liberté n'est pas une liberté infinie et absolue, et de tout faire au détriment des autres. Sinon, ça devient vite la guerre permanente entre tous les individus. Donc bien sûr, là, c'est très polémique aussi, mais les ZFE, les zones à faible émission, qui visent à interdire progressivement les véhicules les plus polluants des villes et des centres-villes, même si ça pose plein de problèmes, notamment sur un plan social, et que vous trouvez sûrement des aménagements, c'est une limitation de la liberté, hein. Avec ta voiture qui pollue, bah, tu n'as pas la liberté de rentrer dans la ville, voilà. Donc ça existe déjà. Puis je pourrais donner un milliard d'exemples. Putain, j'ai failli renverser mon café sur la table de mixage. Je vous lis, et puis je suis du bruit avec ma souris aussi, j'adore. Ça me donne l'impression de travailler. Intéressant. Il y a Grouhaou qui se demande si on ne vit pas une époque où on a trop de liberté de consommation, par exemple. ASMR sourit, exactement Takayoff. Alors le Parisien, on n'est pas obligé de lire cet article, fait un coup de projecteur, toujours sur ce sujet, sur Air France. Bon, je vous résume le pitch de Ben Smith, qui est le directeur général de la compagnie aérienne, Air France KLM, qui explique que Air France entend jouer un rôle essentiel dans ce mouvement qu'on évoque, et que la France pourrait devenir une championne de l'aviation durable. Voilà, donc ça vous intéresse, c'est-à-dire dans le Parisien, mais ça n'ajoute pas grand-chose au débat qu'on a eu ce matin. Voilà. Oui, tout à fait, bien sûr qu'on suit ce dossier, David, de Luis Enrique, l'espagnol, le sélectionneur espagnol, ancien sélectionneur espagnol, qui pourrait devenir le nouvel entraîneur du PSG. Bien sûr, on attend l'officialisation pour vous en parler, parce que bon, on va parler des rumeurs tout le temps. C'est vrai que c'est sur le point d'être fait, effectivement. Voilà. Il paraît qu'il est un peu, moi je connais pas grand chose, mais il est adepte d'un beau jeu, d'un jeu flamboyant, d'un jeu offensif. Il paraît que c'est intéressant. Bon, après, je vous en dis ce que j'en ai lu dans les journaux, notamment dans l'équipe, quoi. On vous en parlera peut-être quand ce sera officiel. Sauf que là, je suis en pause bientôt. Plusieurs journaux en parlent ce matin. Mais j'ai choisi l'article du Parisien. Qu'est-ce que c'est ? Justice. Ultra-droite. Un quatuor d'ultra-droite. Qu'est-ce que c'est l'ultra-droite ? On va le rappeler dans un instant. C'est quoi la différence avec l'extrême droite ? Aux assises, la justice. Les accusés, dont un ex-militaire, échangeaient sur le forum Discord Waffenkraft, créé par l'un d'eux, abreuvé de textes violents. Ils avaient participé à une séance de tir en forêt, bon, et envisageaient des cibles, bon, comprenez, des attentats. Pour la définition de l'ultra-droite, @ nous dit l'ultra-droite prévoit les actions violentes exactement. Quelle est, selon les renseignements français, puisque c'est une définition qui nous vient des renseignements, qui n'a pas été inventée par les journalistes, l'ultra-droite, bah, ce sont des personnes à la sensibilité d'extrême droite, mais qui commettent, ont commis, ou sont sur le point de commettre des actions violentes. L'ultra-droite, c'est ça, c'est la définition. Lisons cet article, vous me direz ce que vous en pensez. Des terroristes, du coup, ben non, parce qu'ils ont, ils ont été arrêtés avant de commettre les faits qu'ils évoquaient dans des échanges, dans des écrits. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? À quelle peine peuvent-ils être commandés ? Vont-ils être commandés ? Condamnés ? On en parle avec cet article de Timothée Boutry dans Le Parisien. Lisons, les amis. Antisémites, néo-nazis, négationnistes, racialistes. Les quatre hommes qui s'apprêtent à comparaître à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises des mineurs, puisque un des accusés était âgé de moins de 18 ans au moment des faits, spécialement composé de Paris, coche toutes les cases de la pensée extrême. Ces turiféraires de l'ultra-droite étaient-ils aussi, ça c'est la question, de dangereux terroristes ou pas ? C'est l'enjeu de ce procès pour l'association de malfaiteurs terroristes criminels. Aux yeux des juges d'instruction, l'acquisition d'armes, la recherche de cibles, l'organisation d'entraînement au tir, la constitution d'une cellule clandestine et leurs écrits, voilà tous les éléments versés au dossier, attestent du désir de passage à l'acte. Alexandra, bonne journée. Comme souvent dans des dossiers similaires, les accusés aujourd'hui de 22 à 28 ans assurent qu'ils n'auraient jamais traduit dans la réalité leurs idées violentes, mais pas du tout. Voilà. Oui, effectivement, on parlait d'attentats, on parlait d'actions violentes, on faisait des repérages, on s'armait, mais c'était pour rire, monsieur le juge. Bon, c'est une défense qu'on trouve assez souvent dans ce type de procès. L'affaire débute fin août 2018 lorsqu'une société de produits chimiques prévient qu'un homme vient de commander des produits susceptibles d'entrer dans la fabrication d'explosifs. Le client, Alexandre G., est gendarme adjoint volontaire dans l'Isère. Interpellé le 7 septembre 2018, cet ancien militaire admet son attrait pour le national-socialisme, comprenez la pensée nazie, et la participation à un forum baptisé Waffenkraft, puissance de feu, nom inspiré de la lecture d'un livre écrit par un néo-nazi américain. Donc un forum qui a été établi sur la messagerie Discord, je pense que vous connaissez. Son pseudonyme, French Crusader, donc le croisé français. Des armes, des munitions détenues légalement sont découvertes en perquisition, mis en examen pour des infractions de droit commun. Il est, ce monsieur, laissé dans un premier temps libre. Deux autres participants à ce forum privé sont aussi mis en cause quelques semaines plus tard. Parmi eux, Henri Tourangeau de 17 ans, qui est le créateur de ce groupe. Discord. En poursuivant l'exploitation des supports numériques d'Alexandre Auger, les enquêteurs font d'inquiétantes découvertes. Outre les nombreuses connexions pour se procurer des armes et des explosifs, le jeune gendarme, là, effectue des recherches sur des cibles, des mosquées, ou encore le conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. À l'instar de certains tueurs de masse d'ultra-droite, il est l'auteur d'un manifeste intitulé « Tactique et opération de guérilla », écrivant notamment « Si vous en êtes à lire ici, c'est probablement que vous avez décidé, comme moi et d'autres, de prendre part à des opérations violentes », texte rédigé en 2017, qui liste différents modes opératoires, attaque avec des véhicules, attaque à l'arme blanche, fusillade. Pour faire un maximum, je cite, dommage en un minimum de temps. Bravo au croisé Breivik pour son excellente opération, clame-t-il encore en référence au terroriste norvégien d'extrême droite qui a tué, vous en souvenez peut-être, 77 personnes en 2011. Takayov écrit, c'est flippant. L'enquête est finalement transférée à des juges antiterroristes en mars 2019. Deux autres hommes sont mis en examen au printemps, donc ça fait 2 et 2, 4. C'est 1 plus 2 plus 2, donc ça fait 5. Les 5 mis en cause ont participé ensemble à une séance de tir en forêt à la mi-juillet 2018 dans la région de Tours. Si vous baladiez dans une forêt de la région de Tours à la mi-juillet 2018, vous avez entendu des tirs, bah, c'était pas des chasseurs, c'était nos amis qui s'entraînaient. Hein. Sur une photo prise ce jour-là, Alexandre Auger et Henri font le salut hitlérien. Voilà. Ça commence à faire beaucoup quand même. Le cas du plus jeune participant, on l'a juste initial, un autiste Asperger de 14 ans, a été 10 juin pour relever du tribunal pour enfants, d'où les 4 qui comparaissent là, et le jeune homme de 14 ans, diagnostiqué autiste Asperger, lui, sera jugé à part par un tribunal pour enfants. Henri et Alexandre Auger sont présentés comme les fers de lance lors de ces auditions. Le second a admis qu'il s'était effectivement radicalisé en réaction aux attentats de 2015, ce sont ses explications. Il se voyait comme en concurrence avec les djihadistes et il voulait faire mieux qu'eux. Je pense qu'il voulait faire pire que le Bataclan, a soutenu l'un des co-accusés pendant l'instruction. Cependant, même s'il reconnaît avoir eu des idées, il assure qu'il ne serait jamais passé à l'acte et avoir tempéré ses opinions depuis, voici à peu près la ligne de défense de ces accusés. Je vous lis un petit peu ce sujet qui est essentiel. Je pense qu'il faut parler de ce genre de choses, ça existe. Ouais, vous êtes nombreux à trouver ça inquiétant. Ça l'est, ouais. Est-ce qu'ils sont en taule actuellement? Alors oui, je pense qu'ils sont, les 4 sont en préventive là. Pour le jeune homme de 14 ans, je ne sais pas. Qui sont les cibles de l'ultra-droite? Ben, le papier l'évoquait, hein, mosquée, institution juive. C'est ce qui était évoqué dans les documents préparatifs de ce groupe. Je vous lis. Grouaou écrit un bel exemple de « je fais le malin derrière mon écran, mais en réalité il n'y a plus de personne, tout est une blague ». Je sais pas. Ça me fait rire d'ailleurs parce que moi je suis beaucoup sur Twitter, notamment pour m'informer. Parfois j'ai lu des choses que je ne voudrais pas lire. Et là, notamment sur Twitter, ces dernières 24 heures, je vois un message d'un jeune homme qui m'évoque, qui me cite, donc j'ai une notif. Je vois très bien le jeune homme parce qu'il décrit une scène, donc je l'identifie physiquement assez vite. Et un jeune homme qui dit à sa communauté sur Twitter, qui dit « Ah là là, MDR, dans la queue au bar du TGV derrière Samuel Etienne ». Et puis là arrive un propos assez peu amène, assez peu sympathique, je ne sais pas ce qui me retient de lui dire, et puis une phrase. Et bah en fait j'étais juste devant toi, parce que, alors du coup je vois très bien le jeune homme derrière moi qui me regardait un petit peu du coin de l'œil de façon hyper discrète, donc je l'avais un petit peu repéré quand même. Donc il était juste derrière moi pendant un bon quart d'heure parce qu'il y avait la grosse queue au bar du TGV comme il peut y avoir pour aller chercher les cafés pour toute l'équipe qui allait faire le stream là à Rennes. Et donc j'étais dans ma petite queue pour prendre mon café. Et donc ça donne quelques heures plus tard ce genre de tweet. Hein. Voilà, MDR dans la queue derrière Samuel Etienne, derrière moi, hein, il était collé à moi. Pour voilà, je ne sais pas ce qui me retient de lui dire, peut-être le courage, peut-être. Voilà. J'ai failli répondre ça sur Twitter et après je me dis arrête de répondre à ça quoi. Le gars il est collé à moi. Voilà. Donc manifestement il a un truc à me dire, il est pas d'accord avec moi sur un truc. Ça ok, il y a aucun souci. Hein. Moi je peux me tromper sur plein de trucs, on peut en débattre, c'est pas un problème. Au contraire c'est cool, c'est ce qu'on fait ici à longueur de journée. Mais le tweet derrière, je sais pas ce qui m'a retenu Enfin, je fais pas super peur, moi, en vrai. Je fais 1m67, je fais 12 kilos, j'ai les bras, on dirait des allumettes. Le garçon en question avait deux têtes de plus que moi. Il était plus jeune, plus vigoureux, je pense. T'as un truc à me dire, même de façon un petit peu agressive, n'hésite pas, quoi, en vrai, quoi. Mais le tweet derrière, il est pitoyable. Donc, voilà, oui. Alors ça, je sais pas quel rapport avec ça, mais effectivement, les gens derrière les écrans qui sont... C'est même pas j'écris un truc sur les réseaux. Et puis je te croise en vrai et puis j'ose pas. C'est, je te vois en vrai, je suis un mètre derrière toi et littéralement j'écris derrière toi. Oh là là, je sais pas ce qui me retient de... Bah, peut-être le courage. Peut-être le courage. C'est incroyable, hein. C'est bizarre quand même, hein, les réseaux, Twitter, tout ça. Ils sont bizarres les gens. Ils sont bizarres les gens. Voilà. J'ai failli répondre et je me suis dit, mais arrête de nourrir ce genre de truc, quoi. J'ai parlé, donc la sagesse commence à devenir un peu sage. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Pourquoi les gens sont comme ça? Viens me parler. Viens me dire ce pourquoi t'es pas d'accord. On va en parler. On se quittera peut-être sur un constat de désaccord, d'ailleurs. Mais au moins, on en aura parlé. Voilà, je t'aurai exprimé mes arguments, les tiens. Peut-être qu'on se rendra compte qu'il y aura un peu un malentendu, quelque part, et tout. Et non, plutôt, non, c'est l'invective, c'est l'agression verbale, puisque manifestement... Il pouvait pas aller plus loin que ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est un peu con. Bon, je réponds plus maintenant. J'ai appris à plus répondre à ça. Parce qu'après, c'est affreux, en fait. Parce que vous nourrissez ce truc, en fait. C'est incroyable. J'ai appris ça. Enfin, il était temps. Petit moine Shaolin, Samuel Etienne. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de faire l'horoscope. Ok. Allez, une petite question d'actu sur l'horoscope. Qu'est-ce que je pourrais vous demander? Une petite question d'actu pour notre jeu de l'horoscope. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on a un jeu ici. Quand on arrive sur la page horoscope du Parisien, là, que je viens de balancer, là, la première à me donner son signe astrologique, je lui lis son signe. Sauf que là, c'est raté, puisque tout le monde sait qu'on va faire l'horoscope. Donc je vais me poser une question d'actu. Ah, je sais. Allez, on va un petit peu sur le truc que j'aime bien. Donnez-moi, en même temps que votre signe astrologique, sinon ça sert à rien, donnez-moi le nom du pilote français qui a encore fait un podium en MotoGP ce week-end. Allez, c'est parti. Le signe et la réponse, pilote français. Oui, mais Zobalut, il faut que tu me donnes ton signe astrologique en même temps, sinon ça marche pas. Zarco, t'avais bon. T'étais même le premier ou la première à me répondre. Zobalut me dit Zarco, Johan Zarco, qui a encore fait un podium, qui a fait troisième au Grand Prix, je sais plus où c'était, moi. Ce week-end, là, voilà, qui est quatrième au classement du championnat du monde, quand même. Johan Zarco, le français. Sauf que t'as oublié de me donner ton signe astrologique et du coup c'est pour oh, mais il y a Michouam juste au-dessus qui est... Oh, bravo Michouam, c'est Michouam. Et donc c'est Capricorne, encore Capricorne. Ah, oh, Capricorne, Sagittaire, c'est parmi les plus rapides. Je sais pas comment vous faites. C'est les signes astrologiques les plus longs à écrire. Capricorne, truc, Sagittaire, c'est pas Lion, c'est pas... Et c'est toujours qui gagne. On a vu, ce jeu est truqué. Donc, Capricorne, c'est parti. Let's go, Capricorne. Cœur, vous pourriez vous faire de fausses idées à propos de l'un de vos proches. Méfiez-vous de vos proches. Ok, de fausses idées. Réussite, la sécurité professionnelle que vous recherchez ne pourra pas être obtenue rapidement. Bon, pour résumer, en langage un peu compréhensible, au niveau du taf, vous êtes un peu de la loose, quoi. Forme, morale en baisse, tout ça est très cohérent. Capricorne, vous avez quand même un signe, un horoscope de merde aujourd'hui. Donc, on va pas rester là-dessus, mais demain sera une autre journée. Du coup, je vais lire un autre signe, un peu plus sympa. Après Capricorne, en gagnant, on avait Poisson. Non, non, mais Sagittaire. Tiens, c'est ce que je disais. Sagittaire, Capricorne. Les signes les plus longs à écrire, c'est eux qui gagnent tout le temps. C'est super louche. Super fuzz, big muff. Sagittaire, c'est parti. Cœur, évitez d'imposer votre volonté à vos proches. En revanche, vous pourrez leur communiquer votre dynamisme. Ok ? Donc, pas la volonté, mais le dynamisme. Ouais. Ouais. Réussite. Votre jugement très sûr sera sollicité par vos collègues. Jugement très sûr. Pas mal. Forme, le stress augmente. Ça va, ça va, ça va en vrai. Ça va. Bravo pour ceux qui avaient Zarco quand même. Je suis sûr que personne n'a écrit Quartararo, le pauvre qui est aux fraises avec ses Yamaha qui avance pas là. Je pense que parfois, je suis sûr qu'il a envie de descendre de sa moto pour la pousser, elle irait plus vite. Pauvre. T'as en MotoGP quand t'as une bécane qui manque de puissance et de vitesse de pointe, c'est foutu quoi. Même quand t'es un des meilleurs pilotes au monde comme Fabio Quartararo. Bah ouais, ouais, 8 Ducati dans le top 10, me dit Dromadaire. Bah ouais. Bah ouais. Yamaha totalement à la ramasse. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. La saison prochaine, il aura une moto qui avance. Il aussi, il y a il aussi dans le chat qui dit n'importe quoi, qui dit c'est la plus belle semaine de ma vie depuis facile 2 ans. Je suis Capricorne, l'horoscope ment. Non. 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 On va rappeler que l'horoscope, c'est de la science. C'est scientifique. L'horoscope, c'est vrai. L'horoscope, c'est fou. L'horoscope, je ne sais pas comment ils font. Hein. Les gens qui pourtant écrivent ces trucs par-dessus la jambe, voilà, ça a l'impression que tu n'as aucun sens, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est confondant de réalité. Quoi. L'horoscope, c'est incroyable. Moi, je ne prends jamais une décision importante sans lire mon horoscope. Hein. Ça, c'est vraiment... Moi, je serais chef de l'État, tiens. Eh bien, je gouvernerai en partie guidé par l'horoscope. Par exemple, conseil des ministres, je prends les horoscopes de tous les ministres, voilà, et tous ceux qui ont des horoscopes de merde, dehors. Vous sortez de la salle du conseil, quoi. Hein. Vous n'allez pas me pourrir mon conseil des ministres. Et donc, non, l'horoscope ne se trompe jamais. Si tu as l'impression de vivre une belle journée, alors que l'horoscope dit le contraire, c'est qu'en fait, tu te trompes. C'est qu'en fait, tu es dans un monde de faux-semblants. C'est quelque part, on t'abuse, on te ment. Hein. Ton patron qui te fait un joli sourire, en fait, il est en train de préparer ta lettre de licenciement. Ton compagnon, ta compagnonne, voilà, qui a tout... En fait, non, c'est pareil, c'est une dinguerie qui arrive. Voilà. T'as mangé un truc sympa à midi, hein, il est midi 16, là. Tout va bien. Non, en fait, il y a un truc à varier. Dans une heure et demie, t'es sur les toilettes et tu as l'impression que tu vas mourir. Donc non. Non, c'est scientifique. Ouais. C'est sûr, hein. C'est sûr. Il y a un peu de gens premier degré ou pas là ? C'est juste. Ou pas du tout ? Tellement hâte de t'élire comme président Lige dans le chat. Ouais, ça n'a pas mordu là, ouais. T'as raison. Que dire non, ben non, Hélène, elle ne veut pas. Pff. Imaginez déjà qu'il y a des boutonneux qui veulent m'agresser dans la file d'attente du TGV pour un café. Enfin, qui sont pas loin de m'agresser. Et si j'étais président de la République, qu'est-ce que je prendrais, quoi ? Oh, nom de Dieu, la violence de la vie, quoi. Il y a Portachar qui bricole en écoutant ce stream, ce qui est très dangereux. J'ai manqué de perdre un doigt avec un coup de marteau en rigolant. N'écoutez pas ce stream quand vous bricolez. Attendez, entre la justesse des idées évoquées ici, le brillant de la pensée. Voilà. À un moment, vous voyez, vous êtes en train de... Par exemple, vous êtes en train de scier une planche. Vous sciez une planche. Voilà. Vous sciez une planche. Et à un moment, vous êtes comme ça, un peu comme pénétré par l'idée, par la réflexion. Et là, vous êtes ailleurs. Vous êtes dans un monde d'esprit pur, hein, dans les limbes de l'esprit, de la philosophie, de la morale. Enfin, vous êtes dans le moi intérieur très profond. Et voilà. Et là, à un moment, vous sciez le bras sans vous en rendre compte. Tellement, vous voyez. Donc, c'est très dangereux, très dangereux. Donc, non, ne bricolez pas en écoutant ce stream. Puis, alors, sans compter l'humour. Hein, les traits d'humour incroyables qui fusent ici. Ça. J'ai l'impression que c'est feu d'artifice le 14 juillet à la Baule. Et là vous riez et vous pouvez vous blesser, vous pouvez faire très, très très mal. Donc attention, hein. Ne faites pas ça, faites pas ça. Qui m'appelle là? Bon. Ouais. Surtout si vous êtes Capricorne. Bien sûr. Bon, je redeviens sérieux parce que ça, c'est un des sujets les plus importants et les plus joliment écrits de ce matin. L'humanité. Voilà. À propos de l'entrée de deux personnalités dans le Panthéon, ce qui n'arrive pas souvent, quoi. Mélinée et Missak Manouchian au Panthéon, au nom des étrangers et nos frères pourtant, à l'occasion d'un hommage aux fusillés du Mont Valérien, la République reconnaît enfin officiellement le rôle joué dans la résistance par le communiste arménien et sa bien-aimée, et à travers eux ceux de tous les FTP-MOI. Ça peut vous parler un peu chinois tout ça, mais je vais vous en dire un peu plus, et vous allez vous rendre compte à quel point ce sujet est important. Au Panthéon, la résistance communiste étrangère. L'Élysée a donc confirmé hier, à l'occasion d'un hommage aux résistants fusillés au Mont Valérien lors des commémorations de l'appel du 18 juin, que Missak et Mélinée Manouchian, donc c'est un couple, vont pénétrer l'an prochain au Panthéon. À travers eux, ce sont tous les FTP-MOI et tous les résistants communistes étrangers qui sont reconnus. Il était temps, dit l'humanité. Non, Real Jesus, ça ne se prononce pas Manouchian. Je le dis avec d'autant plus de certitude que moi aussi je voulais dire Manouchian. Et on a eu un long échange ce matin avec plusieurs journalistes de la rédaction de France Info. Et ce Manouchian-là se prononce Manouchian. Voilà. Alors que moi je voulais dire Manouchian, puis on m'a corrigé et a priori c'est bien Manouchian. Mais moi aussi j'étais un petit peu surpris. Lisons cet article, peu importe la prononciation du nom de famille, c'est pas ça qui est important. Let's go. Voilà. Alors c'est pas André, hein. C'est pas André Manouchian et ça s'écrit pas pareil, d'accord. Donc effectivement, j'aime beaucoup André Manouchian et les petits trucs qu'il fait sur les claviers là, mais a priori ça mérite pas le Panthéon quand même. Let's go. Et vous allez comprendre l'histoire. Orphelin du génocide arménien, donc déjà la vie commence de façon un peu compliquée. Missak Manouchian traverse la Méditerranée en clandestin. Donc aujourd'hui on parlerait d'un migrant, hein, pour débarquer à Marseille sans papier, sans asile, sans ressources. Il était épris de cette terre d'accueil, là on parle de la France bien sûr. Merci Ardine06 pour le Prime, merci à toi. Il s'était épris de cette terre d'accueil au point de mourir pour elle, c'est ce qu'il a fait, pour ses principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Là on parle de la France, dont il entretint la flamme durant la nuit de l'occupation nazie dans notre pays. Avec des milliers d'autres résistants communistes étrangers. Ce dimanche, à l'occasion d'une cérémonie commémorant l'appel du 18 juin, l'Élysée a donc confirmé l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, poète, ouvrier, commissaire militaire des FTP-MOI parisiens sous l'autorité de Joseph Epstein. On va définir les FTP-MOI dans un instant, quoi. Ce temple républicain accueillera ses cendres avec celle de son épouse qui s'appelle Mélinée. Dans un communiqué, la présidence de la République a salué la bravoure singulière, l'héroïsme tranquille de ce résistant communiste, en soulignant l'intention de célébrer à travers lui le sacrifice de tous les FTP-MOI pour fédérer tous les combattants engagés dans la lutte contre le nazisme. À cet égard, tous les résistants et otages fusillés au Mont Valérien seront d'ailleurs déclarés morts pour la France. Il était temps, écrit l'UMA. Voy, Cardinal System en train de se mélanger dans son histoire. Cardinal System, mais je peux comprendre l'erreur qui écrit. Le PCF n'avait pas négocié avec les Allemands pour interrogation. PCF, Parti communiste français. Toi, tu parles de l'alliance qui a eu un moment de fait entre l'Allemagne nazie et le régime de Staline avant qu'il ne change d'avis. Voilà. Le pacte, c'était Staline d'ailleurs, germano-soviétique, alors que les communistes français, tu viens de parler du PCF, eux ont été les premiers à entrer en résistance. Cet acte de mémoire honore par-delà Manouchian des groupes armés qui surfédéraient une jeunesse éprise de liberté héroïque, armée d'un courage inouï, entrée tôt dans la résistance, des étrangers, donc, des apatrides, des Hongrois, des Polonais, des Roumains, des Juifs ashkénazes, jetés dans la clandestinité par la traque de la Gestapo et de ses supplétifs de Vichy. Il y avait des républicains espagnols, il y avait des anciens brigadistes, il y avait des partisans qui avaient fui l'Italie de Mussolini, il y avait des Arméniens rescapés du génocide. Les FTP et MOI ont signé des centaines d'opérations dirigées contre l'occupant, attentats, déraillement de trains, exécution de dignitaires nazis impliqués dans les rafles de juifs. L'un de leurs faits d'armes les plus retentissants, et peut-être que vous connaissez cet épisode historique, c'est l'exécution d'un général SS, Julius Ritter, responsable du STO, le service du travail obligatoire. Ils ont engagé, à l'époque donc, en France, une véritable guérilla urbaine pour déstabiliser l'occupant. Au cours de l'année 43, la fréquence de leurs actions de résistance était telle que les officiers allemands n'osaient plus, ça c'est incroyable, n'osaient plus se pavaner en uniforme dans les rues de Paris de peur d'être pris pour cible. Les polices allemandes épaulées par les services de Vichy, par la milice, décidèrent alors d'unir leurs efforts pour traquer ces combattants. Le président de la cour martiale, à propos du réseau qui sera a posteriori baptisé Groupe Manouchian, salua d'abord le grand dévouement de la police française, de Joseph Darnan et de ses miliciens particulièrement résolus à combattre aux côtés des Allemands. Je lis certains commentaires sur le nazisme et le communisme, qui est un débat sur lequel je suis très tenté d'intervenir, mais là il ne s'agit pas de parler du communisme en tant qu'idéologie et d'incarnation dans certains pays à certains moments de l'histoire, mais du combat de ces hommes qui ont payé de leur vie, hein, le combat pour la liberté, pour les droits de l'homme, dans un pays qui n'était pas le leur, pour lutter contre l'occupant nazi. Quoi. C'est de ça dont on parle ici. Donc à un moment, si vous voulez partir sur un autre sujet, c'est dommage, parce que la France a attendu quand même suffisamment longtemps pour rendre hommage à ces personnes, pour peut-être ne pas partir sur autre chose, si je puis me permettre. Éditorial de Maud Verniol à ce propos. Il n'avait réclamé ni la gloire, ni les armes. Il pousse enfin les portes du temple républicain, à quelques encablures des caves où ils furent torturés, où ils n'ont pas parlé. La panthéonisation de Méliné et Missak Manouchian réchauffera les cœurs des partisans de celles et ceux tombés pour une France qui, après près de 80 ans, consent enfin à honorer comme il se doit ses 23 amoureux de vivre à en mourir. Avec Méliné et Missak Manouchian, en effet, c'est au FTP-MOI et la résistance communiste que la patrie est enfin reconnaissante. Cette armée du crime, comme l'avait qualifié l'occupant nazi, réfugié des pogroms, du génocide arménien, du fascisme, du franquisme, mort pour la France. Mort pour la France. Durant l'été et l'automne 43, ce groupe de résistants étrangers communistes réalisa une centaine d'opérations armées de sabotage, dont l'exécution à Paris du général SS Julius Ritter, sur leur visage émacié, immortalisé par une affiche rouge. Je vais vous montrer la fameuse affiche rouge qui avait été éditée par, je ne sais plus si c'était les occupants ou par le régime de Vichy. Et je pense que cette affiche, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, notamment dans les livres d'histoire, la fameuse affiche rouge. Aragon en a parlé, on l'a chanté. Voilà, tenez, on va sur la fiche Wikipédia d'ailleurs. Voilà, j'ai étudié la fiche rouge au collège, bien sûr. Vous connaissez cette histoire? Regardez. La fiche rouge, qu'est-ce que c'est la fiche rouge? Est une affiche de propagande allemande, disons les mots, nazie, placardée massivement en France sous l'occupation dans le contexte de la condamnation à mort de 23 membres de francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée, les FTP-MOI, les voici. Résistant, je vais vous zoomer sur l'affiche dans un instant, résistant de la région parisienne, c'est le groupe Manouchian, c'est de ça dont on parle, dont 10 sont représentés sur l'affiche. Sur les 23 fusillés après leur arrestation, 8 étaient polonais, et c'était aussi le cas de 4 des 10 de l'affiche rouge. Tenez, voici l'affiche. Voilà, et ça c'est une affiche de propagande nazie, hein. Des libérateurs, pour l'interrogation, la libération par l'armée du crime, hein. Disait l'occupant nazi. Voilà, affiche en France avec l'affiche pour retrouver, en fait. Incroyable. Ces hommes. C'est des visages jeunes. Ouais. Alors, revenons à l'article. Ici. Sur leur visage émacié, immortalisé par une affiche rouge placardée sur les murs par la propagande nazie, on pouvait lire les tortures qui leur avaient été infligées. Le 21 février 44, 22 tombaient sous les balles des nazis au Mont-Valérien. Olga Bancic fut décapitée, elle, en Allemagne, pour qu'on ait à 23 au total. Ils admiraient la France et honoraient la vie, Missak Manouchian était un poète. Comme René Char, il invitait à composer l'avenir sans croire au poids qui décourage. « Je meurs », a-t-il écrit. « À deux doigts de la victoire et du but », a écrit le communiste arménien la veille de son exécution. « Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. » Manouchian aimait la France des Lumières et des Libertés, celle de 1789 et de la Commune. « C'est que des étrangers, comme on les nomme encore », écrivait Paul Éluard, qui croyaient la justice ici-bas et concrète. Ils avaient dans leur sang le sang de leurs semblables. Ces étrangers savaient quelle était leur patrie. J'ai lu autre chose à ce propos, qui était très fort. Ah ouais, c'est là. Je continue l'article. Filé depuis des semaines, donc par les nazis et par les milices et la police de Vichy, Missak Manouchian, trahi un jour, tomba le 16 novembre 1943. Son chef, Joseph Epstein, l'héroïque colonel Gilles, immigré juif de provenance polonaise, tomba avec lui. Ce dernier, sous la torture, ne livra pas un nom à ses bourreaux. Au moment de tomber sous la mitraille de l'occupant nazi, Manouchian avait 37 ans. Ni lui, ni aucun de ses camarades n'avait l'âge de mourir. Ils étaient moins mus par le goût du sacrifice que par une irrépressible élan de vie. La libération était si proche. À la veille de son exécution, il le pressentait, c'était les mots qu'on a lus à l'instant. « Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire, je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et la paix de demain. » Au moment de mourir, je proclame, écoutez, ça c'est fou, au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. « Bonheur à tous !» écrivait-il dans cette dernière lettre. L'œuvre de propagande des nazis pour jeter l'opprobre sur ces résistants étrangers désignés par l'armée du crime, on l'a vu l'affiche, les a paradoxalement gravés dans notre mémoire collective. Les vers d'Éluard, puis ceux d'Aragon, mis en musique par Léo Ferré, y sont pour beaucoup. Sur l'affiche rouge que certains ont étudiée, censé frapper l'infamie de ces combattants de la liberté, Missak est désigné comme un arménien chef de bande, un terroriste. Le visage ravagé par les sévices des tertionnaires, front large, joues creusées, les yeux de jais, il semblait regarder loin, par-delà, l'horizon de la terre. C'est incroyable. Et voilà. Et donc cet homme et son épouse qui lui a survécu, qui est morte une quarantaine d'années plus tard, eh bien, vont faire leur entrée au Panthéon. Voilà. Je vous lis. Vous avez été nombreux à être touchés par cette histoire. Je suis content parce que je trouve que c'est très fort, effectivement. Vous en pensez quoi, vous ? On ne saura jamais. Quelqu'un dans le chat qui me dit « pas sûr qu'ils auraient été d'accord pour cette panthéonisation ». Bon, on ne saura pas, effectivement. Après, manifestement, c'était des amoureux et des amoureuses de la France et des valeurs que notre pays est censé porter haut, pas toujours. Peut-être qu'ils auraient apprécié cet hommage, eux qui ont donné leur vie, en fait, au nom de ces valeurs. Vous êtes plusieurs à me poser la question et je vais aller chercher l'info parce que je ne l'ai pas ou je ne l'ai plus. Qui décide de l'entrée au Panthéon? Moi, je pense que c'est une prérogative du chef de l'État. Je vais le vérifier. Je n'en ai pas de certitude. Et comme toujours, quand on n'a pas de certitude, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. On a Internet à sa disposition. Donc, on n'a plus aucune excuse pour raconter n'importe quoi. Panthéon, voilà. Il suffit de trouver des bonnes sources d'informations, bien sûr. Alors, Le Monde. Voilà. Article du Monde, 3 juillet 2017. Je pense qu'on va trouver notre bonheur là-dedans. Quels sont les critères pour entrer au Panthéon, si jamais vous êtes candidat? Donc c'était à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Simone Veil. Voilà. Donc ça, Simone Veil, Panthéon. Est-ce qu'on a... Qui décide une panthéonisation? À l'origine, c'est l'Assemblée constituante qui a pris la première décision d'inhumer une personnalité au Panthéon. donc plus la Convention, donc là on est dans la période révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite c'est Napoléon Ier qui s'est arrogé ce droit sous l'Empire. Voilà. Ensuite le choix est revenu à nouveau aux députés à partir de 1885, donc 1885 on est en pleine Troisième République. Et depuis la Cinquième République, donc on arrive à maintenant à l'époque contemporaine, cette prérogative revient au président de la République. Bon, bah, pour le coup, je disais pas une connerie, c'est bien le président qui décide, mais même qu'on n'est pas sûr, et surtout qu'on n'est pas sûr, il faut vérifier. Cela fait partie de la redéfinition de ses attributions. Voilà. Donc, effectivement, le président seul choisit, et la décision est mise en œuvre par le ministère de la Culture. Encore faut-il, et ça aussi, c'est un truc, quand vous m'avez dit, mais quelqu'un m'a dit, ah, mais peut-être que eux ne voudraient pas être panthéonisés. Encore faut-il que la personne elle-même, alors en général la personne elle est morte, mais bon, ou ses héritiers ne s'opposent pas à cette entrée au panthéon. Je crois que ça s'est vu dans l'histoire que des héritiers ne souhaitaient pas la panthéonisation de leur ancêtre. Je comprends maintenant. Encore faut-il que la personne elle-même ne s'y oppose pas. Je trouvais ça un peu bizarre parce que la personne est censée être morte. Sauf que par exemple le général de Gaulle avait précisé de son vivant qu'il ne souhaitait pas y être inhumé. Du coup, je comprends la phrase. Effectivement, les héritiers d'Albert Camus, par exemple, ont dit non au souhait du président Sarkozy de panthéoniser Albert Camus. Oui. Voilà, maintenant vous savez tout. Intéressant, hein ? Merci d'avoir posé la question, en tout cas. Yoshi Forever, 2609, merci pour le 16e mois d'abonnement. Itch, merci pour le Prime. Donc Hugo, pourquoi le président n'est pas mentionné dans ce cas? Si l'article dit « l'Élysée a annoncé ». En fait, c'est une périphrase pour dire que c'est une décision du président de la République. L'Élysée, c'est pas Bibi, c'est pas Don Hugo, c'est pas Samuel Etienne, c'est Emmanuel Macron. Donc oui, c'est précisé quand même. Je vous lis parce que c'est très intéressant tout ça. Je n'ai pas la réponse à ta question, Thanos. J'ai lu des trucs rapidement là-dessus. Pourquoi aujourd'hui, demande Thanos, pourquoi honorer au Panthéon ces résistants étrangers si tardivement? Est-ce, hein, l'humanité dit enfin, enfin, je vous mets à la une de l'humain. Est-ce pour le besoin de remplir les rangs de l'armée, vu le contexte actuel, par exemple? Alors, non. Alors souvent, c'est le cas ici, je crois. Il y a des gens, en fait, qui se battent, qui demandent, qui réclament cette entrée au Panthéon de personnalités. Alors, ça peut être des descendants, ça peut être de la famille, ça peut être des intellectuels aussi, des gens qui prennent position en disant, voilà, cette personne mérite d'entrer au Panthéon, il faut lui rendre hommage, voilà. Et c'est un combat qui peut prendre du temps, en fait, tout simplement. Et donc, d'après ce que j'ai lu dans un article ce matin, le président Hollande avait décidé avait refusé. Voilà, le président Hollande, je l'ai lu ça dans un article ce matin, le président Hollande avait refusé cette entrée au Panthéon de Missak Manouchian, et le président Macron, lui, finalement, l'a décidé. Voilà. Alors, évidemment, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce qu'on ne va pas avoir le temps. Il ne m'a pas échappé les analyses type nazisme égale communisme dans le chat. Je les ai vues passer, bien sûr. Là aussi, j'en appelle aux recherches, à la lecture, à la curiosité intellectuelle. Aujourd'hui, on a tous les outils à portée de main pour peut-être comprendre que le communisme, c'est un concept qui s'est incarné de plein de façons différentes. Voilà. Rappelons que Marx était un philosophe allemand, philosophe et économiste allemand, celui qui a pensé le marxisme, et qu'il avait prévu que la révolution industrielle était, avait sa propre logique quasiment d'autodestruction de par la baisse tendancielle du taux de profit et l'insuffisante distribution des commandes de des richesses, pour faire simple. Et donc, bon, la révolution allait éclater comme un fruit mûr, un processus complètement naturel, à commencer par le pays qu'ils connaissaient bien, qui était l'Allemagne. Voilà. Puis l'histoire a montré que c'est pas du tout en Allemagne que la révolution communiste s'est produite, mais notamment en Russie ou encore en Chine. C'est intéressant d'ailleurs, dans un contexte économique qui n'était pas celui du tout qu'avait décrit Marx. Bon, on va pas rentrer dans ce débat parce que ça nous emmène très très loin. Bref, pour vous dire que le communisme s'est incarné dans plein de réalités différentes, des États qui ont elles-mêmes, des États qui ont fait souvent des communismes à leur sauce, hein, le communisme stalinien, le communisme de Mao, voilà, autant de réalités différentes. Voilà, donc le communisme, ça n'a pas beaucoup de sens. Quel communisme, quel pays, quel, voilà, alors parfois avec des crimes crimes monstrueux commis en son nom. Voilà. Et puis parfois, le communisme, c'était autre chose. C'était aussi des voilà, c'est l'histoire du Parti communiste français, par exemple. C'est l'histoire de militants. C'est l'histoire de plein de choses. Voilà. C'est pas le communisme n'existe pas. En tant que tel, il s'est incarné dans plein de réalités historiques différentes, dans plein de pays, dans plein de nations. Et évidemment qu'il y a des choses éminemment condamnables dans la façon dont le communisme a pu s'incarner. Et puis il y a des choses comme, par exemple, la résistance, qui est une autre incarnation du communisme. Voilà. Et aujourd'hui, le communisme, bah, c'est encore une réalité politique en France. Vous avez encore un parti communiste. Vous avez un journal, L'Humanité, qui se revendique communiste, d'ailleurs. Et le communisme, c'est aussi ça. Ça n'est pas que ça, mais ça n'est pas que ça. Une idée politique, et il faut qu'elle se matérialise. Sinon, c'est juste un dialogue intellectuel qui est intéressant, mais il faut qu'elle se matérialise. Et elle se matérialise une fois qu'elle a été appropriée par les hommes de façon extrêmement différente, quoi. Voilà. Enfin bon, c'est pas le débat qu'on veut lancer ici. Je ne sais pas qui officialise l'abonnement de la communauté. C'est anonyme, mais merci beaucoup. Et merci à Yoshi Forever aussi. Merci pour le 16e mois. Hop, on range l'humain et on attaque Libération. Et on va en Iran. Je vous emmène en Iran. Enfin, c'est Libération qui nous emmène en Iran. Libération qui est un petit peu inquiet et qui se demande si les tensions actuelles en Iran... Merci Darkolen. Les tensions actuelles en Iran, voilà, autour de la hausse du coût de la vie, qui est juste avec des prix qui sont en train d'exploser, ne va pas provoquer d'extrêmes tensions dans un État, un pays, une nation qui n'en manque pas, vous le savez. Souvenez-vous, les manifestations qui ont duré si longtemps après la mort de cette jeune femme, après avoir été interpellée par la police des mœurs en Iran pour avoir mal porté son voile, son foulard sur sa tête. Alors qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui pour que ça revienne à la une de Libération? Ben, c'est là. Iran, l'inflation des désespoirs, vente d'organes. Pardon, hein, je viens pas toujours qu'avec des bonnes nouvelles. Vente d'organes, vague de suicides, touchée par une hausse des prix inédite. On va la qualifier, cette hausse de prix, vous allez voir, c'est totalement insane. Le pays s'enfonce dans la crise économique, le régime redoute de nouvelles contestations. Iran, les prix flambent, le régime tremble. L'inflation galopante pousse de plus en plus d'Iraniens dans des situations extrêmes. Certains vendent leurs organes, d'autres se suicident. Pour éviter de relancer la contestation, le gouvernement tente de négocier avec les Occidentaux. Grand Jean, merci beaucoup pour le petit message. Bonne fin de saison à toi aussi. Je mets en vente mon rein, mon foie, ma moelle osseuse à cause d'une grande détresse financière. Je suis jeune, sportif, en pleine santé. Veuillez comprendre ma situation, me contacter. Si vous êtes acheteur, c'est une vraie petite annonce. Un message écrit sur un morceau de papier accroché sur un mur, tremblant sous les rafales de vent qui fouettent une rue de Téhéran, témoigne d'une tragédie invisible. Cette petite annonce qui attire brièvement l'attention des passants et laisse imaginer l'immense désarroi dans lequel sont tombés une grande partie des Iraniens face à cette crise économique qui est inédite. Alors on va la qualifier, cette crise économique, puisqu'on parle d'inflation en France aussi, mais vous allez voir que celle-ci est sans commune mesure. Selon les statistiques des autorités de la République islamique, le taux d'inflation a atteint le mois dernier un record sans précédent depuis 8 décennies, alors que le chiffre officiel oscille autour de 50% de hausse des prix. La réalité vécue par la population iranienne semble bien plus difficile. Certains observateurs évoquent un taux réel de près de 170% sur les denrées de base. Si le ralentissement de l'économie a été déclenché par les lourdes sanctions occidentales imposées à l'Iran, la situation désastreuse qui touche actuellement le pays est largement due à la mauvaise gestion et la corruption des dirigeants. Pour sortir de cette impasse et éviter d'alimenter la contestation sociale, Téhéran multiplie les mains tendues vers les Occidentaux, c'est intéressant. Notamment la libération ces dernières semaines de plusieurs étrangers détenus par le pays. Objectif, renouer le dialogue en vue d'une relance des pourparlers sur le nucléaire afin d'assouplir les sanctions internationales qui asphyxient son économie. Voilà. Vous avez un gros dossier, hein, c'est plusieurs pages. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, juste la une, 6 pages sur le sujet dans Libération. Ce matin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter Libération. Qui écrit par ailleurs que ces dernières semaines, des médias locaux ont donc révélé des cas de suicide d'Iraniens désespérés, incapables de couvrir leurs frais de subsistance de base. Vous avez des citoyens, des citoyennes iraniennes qui se donnent la mort parce qu'ils ne trouvent pas les moyens juste de manger. Hein. C'est ça. Les Iraniens ont conscience qu'une augmentation prochaine des prix du carburant est inévitable et précipiterait une hausse significative de presque tous les biens. Cette escalade imminente exacerberait l'inflation déjà galopante, plongeant encore plus le pays dans l'abîme économique. Une telle évolution pourrait être l'étincelle qui déclencherait une nouvelle vague de protestations nationales plus puissante et de plus grande portée que jamais. Ces manifestations récurrentes et de plus en plus nombreuses ces dernières années font désormais partie du paysage de la République islamique, parce que des mouvements de contestation, des mouvements de manifestation, l'Iran en a connu plusieurs ces dernières années, pas seulement celle que j'évoquais tout à l'heure. Le dernier vent de révolte, le voici, né en septembre après la mort de Mahsa Amini à la suite de son arrestation par la police des mœurs, était centré sur les demandes de liberté, vous en souvenez ? Les droits des femmes ? Et la question du voile obligatoire touchant une corde sensible dans l'ensemble de la société iranienne ? La ferveur de ces manifestations de rue s'est atténuée au cours des derniers mois, on en a beaucoup parlé ici. Mais la colère et la frustration de la population continuent de couver et d'enfler de jour en jour. Si ça pète dans les prochains jours en Iran, vous penserez à cet article. Dans un tel climat d'effondrement économique, la quasi-totalité des couches de la société sont transformées en manifestants potentiels, susceptibles de rejoindre le mouvement féministe. Une telle vague pourrait avoir des résultats imprévisibles et irréversibles. Voilà. Vous avez 6 pages sur l'Iran, c'est-à-dire dans Libération. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Seb Zobra qui pose la question, est-ce que l'inflation est due aux sanctions occidentales ou à la mauvaise gestion des dirigeants pour Libé ? Les deux. Les deux. Je vous lis. C'est ce que dit Libération. Et French Gyu est de retour. Je vois que l'histoire de l'Iran vous touche. Les sanctions sont dues à la mauvaise gestion de Mondromader. Bah, les sanctions sont dues notamment à la crainte des Occidentaux de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, hein, de la surveillance du programme nucléaire civil iranien, dont les Occidentaux soupçonnent sans doute à raison quand on voit les images, notamment satellites, qu'ont chopé de temps en temps les Occidentaux, que ce programme civil nucléaire iranien puisse servir à développer une bombe atomique, voilà. Et les sanctions sont notamment liées à ça, quoi. Plus aux actions de déstabilisation menées par l'Iran dans des pays de la région, selon les accusations de ces mêmes Occidentaux. Je suis pas un grand spécialiste de la région, donc n'hésitez pas à vérifier tout ce que je vous dis sur le sujet. Merci Guigui Dave, j'avais pas vu. Merci pour le Prime. Attention les amis. Dernier article de cette, a priori, dernière revue de presse de cette saison 3 de Twitch de Papy Sam, parce que voilà, dans les deux prochains jours, j'ai plein de rendez-vous le matin, justement pour développer la chaîne Twitch à la rentrée. Et puis jeudi, je subis une petite opération qui va me rendre indisponible pendant une dizaine de jours. Puis après, je vais enchaîner avec des vacances pour me reposer un petit peu. Donc, je m'arrête un peu tôt cette saison-là, 19 juin. J'aurais voulu aller jusqu'à la fin du mois de juin, mais en fait, je ne peux pas. Mais je vous retrouve fin juillet sur cette chaîne, bien sûr, pour reprendre la revue de presse. On va streamer toute la fin juillet, tout le mois d'août. Et puis à la rentrée, on va bombarder cette chaîne d'émissions. L'Hebdo Étienne, le retour. Ça me plaît, l'émission qu'on a testée sur le jeu vidéo, là, qui va devenir Hebdo. Peut-être, qui sait, une troisième émission Hebdo, on verra bien. Et puis la revue de presse, bien sûr. Et puis on fera les rencontres Étienne, les expositions Étienne, tout ça, quoi. Donc là, on arrive sur le dernier article de cette dernière revue de presse de la saison. De la saison 3. Bah, let's go. Merci pour les petits messages d'encouragement pour l'opération. C'est rien du tout, c'est rien du tout. C'était un truc à faire. Et on va finir avec de la politique. Ah ah, hein, c'est toujours bon, ça. Un petit peu de politique fiction. Le remaniement vire au casse-tête pour Macron. C'est la une du Figaro. Est-ce que Elisabeth Borne va être remerciée, va être, disons les mots, virée par le président Macron? C'est un grand classique de la 5e. On change le gouvernement, on change le Premier ministre. Pour redonner un petit peu d'allant ou pas d'ailleurs à son action politique. Voilà. Est-ce que Elisabeth Borne va être remerciée dans les prochains jours, les prochaines semaines? Ça semblait évident il y a quelques temps et ça l'est de moins en moins. Eh ben, c'est ce qu'on va lire. Voilà. Une question, Samuel. Est-ce que tu viens sur Twitch parce que tu aimes l'argent? Merci à Zertiz pour cette question très très franche et brutale. Sache que je gagne plutôt mieux ma vie dans mon ancien métier dans les médias traditionnels, voilà. Si ce n'était que mon critère, je ne serais pas là. Après, peut-être qu'un jour je vais gagner des centaines de millions de dollars, ouais, sur Twitch. Peut-être que Kick va me proposer 100 millions de dollars pour aller sur Kick, voilà. Qu'est-ce que je ferais? Je les prends et on partage? Comment on fait? On verra. Non, en vrai, je gagne mieux ma vie en télé, quoi. Donc si un jour je lève le pied sur la télé pour faire plus de stream, c'est plus parce que je m'y amuse plus, que j'y ai plus de trucs sympas avec vous. Mais ce sera pas pour l'argent, en tout cas. Le remaniement vire au casse-tête pour Macron. Alors ça, c'est intéressant. Hein, le président de la République doit composer avec les exigences de sa majorité, qui refuse un virage trop prononcé à droite et les aspirations de l'opinion, qui souhaite un accord avec LR. À mesure qu'approche donc la fin des 100 jours, vous vous souvenez, fixés par le chef de l'État, les rendez-vous stratégiques se multiplient à l'Élysée et la liste des premiers ministrables potentiels n'en finit pas de s'allonger. Les gens qui rêvent de devenir Premier ministre, Pourtant, bien qu'il consulte à tour de bras, Emmanuel Macron n'a toujours pas réussi à identifier la bonne formule qui lui assurerait une majorité stable à l'Assemblée. C'est un peu compliqué. Hein, ils n'ont pas, je parle de la majorité du camp Macron, obtenu une majorité absolue à l'Assemblée lors des dernières législatives. Donc il faut trouver des accords, passer des accords avec d'autres groupes, par exemple la droite, par exemple LR, pour former une majorité. Sauf que ce matin, Alix Bouyaguet, l'excellente spécialiste politique de la matinale de France Info, nous a expliqué que, a priori, cette union Macron-droite ne se fera pas parce qu'elle n'est désirée réellement ni par la droite, ni par Macron. N'hésitez pas à réécouter Alix Bouyaguet là-dessus sur France Info. Ce matin, elle était super claire. Donc, effectivement, il faudrait trouver le Premier ministre magique qui permettrait de créer cette union, ce dialogue. Elisabeth Borne a tenté de créer cette union entre LR, les députés LR, et le camp Macron, mais ça n'a pas fonctionné. Comme vous le savez, il suffit de voir ce qui s'est passé sur la réforme des retraites. Je répète la phrase. Emmanuel Macron n'a donc pas réussi à identifier la bonne formule qui lui assurerait une majorité stable à l'Assemblée. Désireux de modifier les équilibres gouvernementaux tout en préservant la fragile unité de ses troupes, le président de la République n'a pas non plus tranché le sort d'Elisabeth Borne. Et pour cause, le sondage. Même si 63% des Français disent vouloir son départ, notre sondage Odoxa Backbone Consulting du Figaro révèle qu'aucune autre personne ne semble s'imposer aux yeux des Français, faire consensus pour Matignon. Faute de mieux, le statu quo pourrait donc l'emporter au moins jusqu'aux européennes et aux Jeux Olympiques de 2024. C'est intéressant. Hein, il y a quelques semaines, on était persuadé qu'Elisabeth Borne allait être remerciée. On parlait de Gérard Larcher, le président du Sénat. On parlait de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. On parlait de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est en train de se demander si finalement Elisabeth Borne ne va pas rester, au moins jusqu'aux élections européennes, hein, les prochaines élections européennes, ou même jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. C'est vrai que, est-ce qu'il existe aujourd'hui un homme ou une femme capable de faire mieux que Borne? C'est ça la question. Notamment pour de trouver des majorités à l'Assemblée pour voter les réformes voulues par le président Macron et pas passer par le 49-3. C'est pas sûr. Ouais, François Bayrou, effectivement, on a parlé de François Bayrou aussi. François Bayrou, il vient de dire non, je veux pas aller à Matignon. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà, les amis. Je vous lis un petit peu là-dessus. Puis après, je vous fais un petit au revoir et on se voit bientôt. Imaginez, c'est moi le prochain Premier ministre. Imaginez qu'en fait, tout ça, c'est ça. Tout ça, c'est pour ça. Je vous lis. J'ai vu un gentil message à l'instant. Je vais aller te remercier. Alors. J'ai vu que Azertiz s'est pris un petit ban temporaire. C'est vrai que les propos étaient un peu bizarres, Azertiz. Mais je viens de remonter dans l'historique des chats d'Azertiz. Et en fait, je vois que dans ton historique, il n'y a rien de problématique. En fait. Je pense que ton message par rapport au métier de mes parents était plus maladroit qu'autre chose. Moi, j'ai perdu ma maman il y a très longtemps. Donc, pour le coup, c'était un peu maladroit. Mais tu ne peux pas le savoir. Et mon père est à la retraite depuis très très longtemps. Donc, du coup... leur activité professionnelle n'a que peu d'intérêt aujourd'hui, mais je pense que tu ne le savais pas forcément, et je pense que ton message était plus maladroit qu'agressif. Et c'est ce que témoigne d'ailleurs ton historique de chat, donc voilà, c'était ne prends pas mal ce ban provisoire qui a été fait par un modo, parce que c'est vrai que ton commentaire était un peu zarbi. En fait, mais je sais, je sens que tu ne pensais pas mal, voilà. Même si ton message, sur le coup, je me suis dit, c'est un peu bizarre, mais je vois que voilà, c'est pas ce que tu voulais faire. Donc ce ban va se lever automatiquement de toute façon. Voilà, je comprends la petite décision du modo parce que c'était un peu maladroit quand même. Les amis, merci. Voilà, d'ailleurs, tu vois, les modos sont allés voir ton historique, ils se sont dit la même chose. Donc voilà, ne le prends pas mal. C'est un petit ban provisoire qui va s'annuler très très vite. J'avais lu un petit message sympa. Tout à l'heure, j'ai reçu un DM sur Twitter. Je voulais juste vous le lire. Peut-être que la personne est avec nous ce matin, parce que j'ai trouvé ça un peu beau et sympa. Voilà, c'est un garçon qui s'appelle Toff, qui j'échange, qui m'envoie des infos de temps en temps régulièrement. Donc, tiens, on pourrait parler de ça. Et puis, qui m'écrit tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez touchant en fait. Cher Sam, je suis désolé. Après 21 mois d'abonnement Twitch, merci à toi quoi, je dois stopper ce jour, tout devient compliqué financièrement et c'est 5€ par mois aussi. Je suis désolé car c'était vraiment top qualité. Donc déjà Toff, si tu es avec nous, je vais te répondre en DM tout à l'heure parce que ton message me touche. Et c'est l'occasion de remercier tous ceux qui sub, certains depuis 21 mois comme Toff. Et donc merci à vous du soutien, parce que c'est grâce à vous que je peux passer du temps ici. Mais de rappeler aussi qu'effectivement le sub n'est pas une obligation, c'est ce qui est intéressant sur Twitch aussi, le sub n'est pas un abonnement, hein, à un contenu que vous n'auriez pas si vous n'étiez pas abonné, c'est un soutien, voilà, au streamer, et vous pouvez soutenir ce streamer ou cette streameuse, voilà, ou un autre, voilà. Et ça n'est évidemment pas une obligation, et c'est sur la base du volontariat, et que merci à ceux qui le font, mais que... et que ceux qui échangent avec moi au quotidien sur l'actualité, c'est une autre façon de soutenir aussi cette chaîne, quoi. Donc Tof, si tu es avec nous, merci beaucoup pour ce message qui m'a beaucoup touché, je vais t'écrire tout à l'heure. Et puis merci de ce soutien pendant ces 21 mois. Et surtout, j'espère que cette situation que tu évoques, matérielle, financière, va s'arranger, parce que je sens que ça semble compliqué un petit peu en ce moment. Donc j'espère que ça va s'arranger. Merci pour tout ça. Hein. Alors c'est pas un... j'ai l'impression de dire au revoir. Putain, je suis ému, c'est con. Merci pour tout ça. Ça fait presque 3 ans que je suis sur Twitch. C'est une aventure de fou, c'est une aventure merveilleuse, de liberté. On a des idées, on se dit tiens, on va faire ça, ça peut être marrant. On a envie de lire des vieux journaux sur Twitch, puis finalement les gens sont là, ça fonctionne. On a envie de faire des émissions d'actualité, et puis il y a des gens qui trouvent ça intéressant, donc on le fait. On fait des collabs avec d'autres streamers, d'autres streameuses. Voilà. On lance des nouveaux trucs régulièrement, on va dans les musées, on fait des expos. On lance même une émission sur le jeu vidéo dont je rêvais depuis très très longtemps, et les gens sont là. Voilà, c'est hyper touchant. Donc c'est très très fort. C'est ça qui m'a détourné un peu de ma vocation première de journaliste, et puis d'hommes, de médias, de télé et de radio. Voilà. Donc, un peu au détriment du reste ces dernières années, puisqu'il a fallu que je trouve le temps pour streamer en plus de mes autres activités, Question pour un champion, France Info, et de papa et de mari aussi. Donc j'ai dû réduire sur des trucs. J'ai supprimé le sport il y a un an, alors que je faisais du sport tous les jours depuis 20 ans, quoi. J'ai supprimé le sport il y a un an, qui n'était pas l'idée du siècle. J'ai réduit le sommeil au minimum, ce qui n'était pas l'idée du siècle. Mais à un moment, quand on veut faire plein de trucs, il faut trouver les moyens, quoi. Donc, c'était parfois chaud, mais c'était tout le temps génial. Tout le temps, tout le temps. Pardon, j'avais soif. Comme vous l'avez vu, je n'étais pas du tout ému. J'avais juste soif. Et donc, c'est tout en génial grâce à vous, c'est ça que je voulais dire. Donc, merci pour tout ça. C'est intellectuellement, professionnellement, humainement, extrêmement stimulant tout ça. Je ne suis pas en train de dire au revoir, hein, j'en parle pas au passé. Au contraire, l'envie est plutôt de faire plus et de faire mieux, de continuer à vous proposer des choses, d'être plus présent encore que ces 3 dernières années, quoi. 2 ans et demi, pour être tout à fait honnête. Et avec une plus grande qualité encore. Donc en fait, donc j'ai pas mal travaillé à ça ces derniers temps, ce qui m'a conduit à certains arbitrages, mais que je regrette pas d'avoir fait ou de faire. Tout ça pour vous dire que je m'absente un tout petit peu, mais donc ça n'est qu'un au revoir selon la formule consacrée, puisque donc là la saison, on va dire la saison 3 s'arrête ce 19 juin à 13h01. Putain, c'est pile poil. Putain, on vient de faire 3 heures de stream pile, en fait. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais jamais réussi. Donc cette saison 3 s'arrête là, aujourd'hui, 19 juin, à 13h01, après 3 heures de stream. Mais reprend dans quelques semaines, puisqu'en gros, je reviens fin juillet. Voilà, après 2-3 petites péripéties, incluant des vacances. Voilà. Et on va streamer chill, tranquille, fin juillet, tout août. L'info, des trucs un peu sympas. Peut-être des rencontres, on va voir ce qui se fait. Et puis à la rentrée, ça va attaquer sérieux, sévère, avec le retour de l'Hebdo Étienne saison 2, avec Samplay qui, je l'espère bien, va devenir une vraie émission hebdomadaire. On va se régaler, ça va être formidable. Et peut-être d'autres projets aussi, si j'arrive à trouver les partenaires pour le faire. Donc merci pour tout. Vraiment. Parce que tout ça est vraiment top. Putain, j'ai pas remercié le dernier sub. Guiguidav, Darkolen, FEJ, de Real d'Abrien, pardon. J'avais les yeux un peu baissés, merci pour les subs. Et puis alors, prenez soin de vous surtout. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Soyez égoïste. Pensez à vous. Parce que vous connaissez ma philosophie à 2 centimes d'euros là-dessus. Vous ne pouvez pas rendre les autres heureux vraiment si vous ne l'êtes pas vous-même. Il faut trouver une forme d'équilibre à un moment pour aussi. En apporter aux autres. Donc à un moment, pensez un petit peu à vous, quoi. Voilà. Trouver des sources de plaisir, de bonheur, d'équilibre. Puis après, essayez de faire ça, faire un peu de bien autour de vous, et ce sera encore mieux, quoi. Et puis passez une belle fin de saison. Je parle toujours en saison, moi. Passez un bel été. J'espère qu'il y aura des vacances. J'espère qu'elles seront cool. J'espère que matériellement la vie est pas trop compliquée, que vous pouvez en profiter. Je sais que pas. Tu vois, comme le dit Célige, 76, les temps sont durs, soyons mous. Donc j'espère que la vie est plutôt douce pour vous. Et que si elle ne l'est pas, ça arrive, bah, que gardez espoir, essayez de changer les choses avec vos petits bras, vos petites mains, même si parfois c'est difficile parce que le jeu en vaut la chandelle. Et puis on se retrouve fin juillet, dernière semaine de juillet pour restreamer. Et puis merci aux modos qui sont d'un soutien. Parce que je vous vois, hein, Anonyme 31, Captain McBernick, French Yu-Gi-Oh, Julo 18, MMG7F, VOD Samuel, Xineco et Nightbot, bien sûr. Je vous vois. Je pense que les viewers savent bien le temps, l'énorme temps que vous consacrez à cette chaîne, l'énergie, l'attention, l'implication. Une chaîne sans streamer, ça n'existe pas en fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment merci. Destination trouvée, j'ai eu raison de dire que on ne faisait pas des raids que vers des viewers, des viewers qui n'avaient pas encore trop de streamers, streameuses qui n'avaient pas encore trop de viewers, viewers et de communauté. Et pour cause, là, on va raid un installé, un habitué, un pilier, voilà. Et c'est une façon de le remercier puisque c'était Ken Bogart qui est venu dans ma deuxième émission, ça me plaît, pour vous faire découvrir l'univers de Mario, de Super Mario. C'était vendredi dernier, on s'est régalé. C'est une façon de le remercier à nouveau parce qu'il m'a donné beaucoup d'infos et de gentillesse et d'attention. Donc on raid Ken Bogart, K-E-N-B-O-G-R-D. Il nous fait du Street Fighter 6 parce que c'est une vraie passion pour lui. Vous savez, c'est le grand commentateur de jeux de combat, notamment Street Fighter. Je charge le raid. Bam! Je pense que vous avez aimé cette émission avec Ken. Bah justement, on va le retrouver tout de suite. Le raid est en train de se charger. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Je vous dis à très très vite. On va se retrouver très 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 vite. Le temps de me reposer un petit peu. Et merci encore pour tout. C'est parti pour le raid. À très vite.